7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 4 juillet, content de vous retrouver. Tous les candidats au bac auront leur résultat demain, c'est la promesse du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Face à la grève des profs, les détails dès le début du journal de 7h avec Hélène Zélani déjà présente dans le studio. Les mauvaises habitudes au volant reviennent, résultat d'une étude qu'Europe 1 vous dévoile en exclusivité ce matin. Vitesse, téléphone, rien de rassurant à la veille d'une nouvelle vague de départ en vacances, soyez prudents. Le Premier ministre Édouard Philippe en visite en Corse et le dialogue est toujours aussi compliqué avec les nationalistes. C'est ce que nous dira Jean-Michel Apathy à 7h40 dans son édito politique. Et puis le Tour de France démarre samedi et cette année il pourrait bien sourire à un Français. Les équipes sont présentées aujourd'hui à 7h45. Je reçois l'ancien maillot jaune Thomas Volker. Il sera notre consultant Europe 1 pour les 3 semaines à venir. La matinale d'Europe 1, ça commence maintenant. Bonne journée à tous.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce jeudi matin. Très bon réveil, il est 7h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Et le premier journal de la matinale vous est présenté par Hélène Zélani. Bonjour Hélène.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Les candidats au bac peuvent dormir tranquilles, ils seront fixés demain matin. C'est en tout cas ce que leur promet Jean-Michel Blanquer, vous entendrez le ministre de l'Éducation. Les comportements dangereux au volant en hausse depuis un an, notamment ceux des conducteurs de camions qui mordent sur la bande d'urgence. Et puis après les bouchers, les vétérinaires pris pour cible par des militants de la cause animale. Témoignage édifiant d'un véto du Maine-et-Loire.
Europe 1.
Pas facile en ce moment d'être un élève de terminale qui attend ses résultats du bac. Pas facile non plus d'ailleurs pour les parents. Ils ont un doute sur le verdict qui doit être rendu demain matin, sachant que des profs en grève retiennent environ 100 000 copies sur 4 millions. Mais hier soir, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a tenu à les rassurer. Il a trouvé la parade.
Vendredi, les élèves auront leurs résultats. Et c'est bien entendu normal que les élèves aient leurs résultats à la date prévue, ne serait-ce que parce qu'il y a des conséquences des résultats, notamment le fait de passer éventuellement l'oral de rattrapage en début de semaine prochaine. Pour le cas où il y aurait encore quelques notes manquantes, dans ces cas-là, la solution que l'on retient, c'est de donner la note de contrôle continu de l'année de l'élève. Elle sera donnée à titre provisoire vendredi, ce qui permettra à l'élève d'avoir son résultat. Si en début de semaine, on a finalement la copie et que la note est meilleure, c'est cette note-là qui sera retenue. Mais sinon, c'est la note provisoire qui sera la note définitive. Et donc, nous aurons ainsi pour tous les élèves toutes les notes et nous garantirons le fait qu'une petite minorité ne saurait imposer sa façon de voir à l'immense majorité des professeurs d'une part et à la totalité des élèves d'autre part.
Jean-Michel Blanquer hier soir sur BFM TV, il faut savoir que les profs récalcitrants risquent des retenues de salaire jusqu'à 15 jours et des sanctions pour faute grave s'ils ne rendent pas les copies qui sont propriété de l'État. Louise est l'une des responsables de la plateforme Bloquons Blanquer, opposée aux réformes du ministre. Pour elle, utiliser la note de contrôle continu, c'est injuste.
C'est plus qu'injuste, c'est un système scandaleux parce que c'est une rupture d'équité et c'est rompre clairement avec la logique du baccalauréat qui est un examen qui permet effectivement de mettre tous les élèves de terminale devant la même situation à la fin de leurs études au niveau de l'école obligatoire. Donc ça n'est pas possible. Et là, en fait, ça prédit en fait la logique qui sera à l'œuvre lorsque la réforme prévue par M. Blanquer du baccalauréat sera mise en place. Et cette logique, elle s'inscrit dans une logique de tri sélectif des élèves dès le plus jeune âge, de la maternelle à l'université, c'est tout ce que c'est.
Une enseignante en grève au micro Europe 1 de Justin Morin. Et puis dans l'enquête sur les fuites au bac, 5 lycéens sont toujours en garde à vue ce matin. Au total, depuis mardi, 19 jeunes de 17 et 18 ans ont été arrêtés à Paris et Marseille.
Europe 1, il est 7h03.
Vous faites peut-être partie des chanceux qui s'apprêtent à partir en vacances et soyez prudents, attention sur la route.
Oui, les mauvaises habitudes ont la vie dure. Selon l'enquête de l'Observatoire annuel des comportements au volant de la SANEF, qu'Europe 1 vous dévoile ce matin, les comportements dangereux ont pris de l'ampleur par rapport à l'an dernier. Sur 2 tronçons, de la 1 et de la 13, vitesse, téléphone et poids lourd sont les grands ennemis de la sécurité, Aude Leroy.
5000 poids lourds observés sur 100 mètres d'autoroute et le résultat est effrayant. Sur la 13, un camion sur 5 mort sur la bande d'arrêt d'urgence toutes les 2 minutes et tous les quarts d'heure, un camion roule même carrément dans cette voie. Autant dire qu'un piéton ou qu'une voiture arrêtée est immédiatement en danger de mort. La faute à l'inattention des chauffeurs routiers, explique Pascal Contremoulin, responsable de la sécurité routière à la SANEF.
Alors la distraction actuellement, ce qu'on voit le plus, ça peut être le téléphone ou un usage par exemple d'un smartphone pour envoyer des mails, des SMS ou alors une inattention due à une tâche autre que la conduite parce que cette conduite, elle peut y avoir une certaine lassitude. Ça peut être aussi simplement de la somnolence. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ces deux sites étaient équipés des barrettes sonores justement pour éviter une intrusion sur la bande d'arrêt d'urgence.
L'inattention et les manœuvres dangereuses, c'est 30% des accidents mortels sur autoroute l'an dernier. À cela s'ajoute une hausse de la vitesse qui repart, à l'origine d'un accident sur 7 sur autoroute, et toujours le non-respect des distances de sécurité.
Information signée Aude Leroy. C'est le 71e féminicide depuis le début de l'année. Une jeune fille de 20 ans, enceinte de 3 mois, a été tuée par son conjoint hier à Saint-Denis, en banlieue parisienne. Elle avait déposé une main courante la veille, après des violences conjugales. L'homme est en garde à vue. Les commerçants mi-figue, mi-raisin, les soldes d'été ont commencé très doucement il y a un peu plus d'une semaine. Il y avait déjà les perturbations liées aux gilets jaunes pendant les soldes d'hiver. Eh bien, cette fois, Aurélien Fleureau, c'est la canicule qui a joué les troubles fêtes.
Si certains clients se sont rués dans les magasins pour acheter des ventilateurs, ils ont surtout privilégié les endroits climatisés, ce qui a entraîné de gros écarts de vente entre les boutiques de centre-ville et celles situées dans les grands centres commerciaux, constate Emmanuel Leroc, délégué général de Procos, fédération qui rassemble 260 enseignes.
Pour les mêmes enseignes, on voit des écarts assez importants, en fait, à la fois en termes de trafic, de l'ordre de 20-25%, et puis en termes de chiffres, 5 à 6 points d'écart en termes d'évolution de chiffre d'affaires. Donc c'est très significatif, mais on en connaît la cause.
Trois premiers jours compliqués également parce qu'avec des ventes privées organisées juste avant, l'impact du début des soldes est forcément moins fort. Mais ensuite, le week-end a été rassurant, explique Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce.
Toutes les enseignes m'ont fait part quand même d'un week-end assez dynamique avec des chiffres positifs, ce qui fait plaisir puisque le secteur connaît des difficultés depuis plusieurs semaines. Donc on a retrouvé une dynamique le week-end dernier. Donc on espère qu'on va poursuivre sur cette dynamique dans les prochains jours.
Les soldes vont se terminer le 6 août prochain. Ce sera la dernière fois qu'ils dureront 6 semaines avant la mise en place de la formule réduite à 4 semaines.
Aurélien Fleureau,
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal d'Hélène Zélani. Certains militants de la cause animale en arrivent à cibler les vétérinaires. Et on vous expliquera pourquoi juste après ça. Bon réveil.
Il est 7h07, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani. Alors, on avait beaucoup parlé cette année de ces actions de militants de la cause animale contre des bouchers. Et là, ils s'en prennent à d'autres professions.
Oui, les vétérinaires qui sont de plus en plus nombreux à être pris pour cible sur les réseaux sociaux. Et ça va parfois très loin, comme pour ce véto du Maine-et-Loire, véritablement lynché sur Facebook, sous prétexte qu'il avait piqué un chien dangereux. François Coulon l'a rencontré pour Europe 1.
Sa faute, avoir euthanasié un chien dangereux qui mordait ses nouveaux maîtres, épinglé sur Facebook par la présidente d'une association animaliste, le docteur Vincent Coupry, vétérinaire à Cholet, a été brutalement submergé par un flot de haine insensé.
Incendié, traité de nazi, d'assassin, on allait me faire la peau, j'étais un salaud, je devais changer de métier. Avec ma photo, avec mon nom, c'était partagé des milliers de fois avec des messages de haine extrêmement violents contre moi.
Ça vous fait peur ?
Oui, on a le sentiment d'être en permanence à la merci de n'importe qui, des gens qui sont de véritables fanatiques et des messages de haine. J'ai vu des confrères se faire casser le portail de leur cabinet, menacés de mort au téléphone, parce que soi-disant ils n'avaient pas fait le boulot. Les confrères étaient totalement hors de cause. Dans certains cas, c'est des appels au meurtre. Ça devient terrifiant, parce qu'on ne sait pas ce qui un jour va se passer dans la tête de quelqu'un. C'est lourd, c'est très très lourd.
Le docteur Coupry a obtenu en justice une condamnation pour diffamation de cette femme qui lui a quasiment occasionné un burn-out. De plus en plus de vétérinaires sont ciblés sur les réseaux sociaux, souvent par des anonymes qui échappent à toute sanction. Cholet, François Coulon, Europe 1.
Tollé international après le drame de mardi soir en Libye, un centre de détention pour migrants a été bombardé, faisant au moins 44 morts et une centaine de blessés. L'ONU réclame une enquête indépendante, mais aussi un cessez-le-feu immédiat en Libye.
J-2 avant le Tour de France, aujourd'hui présentation des équipes au grand public.
Oui, une grande boucle qui s'élancera samedi de Bruxelles en cette année du centenaire du maillot jaune. Grâce à Axel May, on vous emmène visiter l'usine historique qui le fabrique. C'est à Romilly dans l'Aube.
Ici, on coud, découpe, assemble. À l'occasion du centenaire du maillot jaune, le coq sportif a décidé de concevoir entièrement la célèbre tunique dans son usine historique de Romilly, sans délocaliser au Portugal. Christine est chef d'atelier.
Là, je suis en train de poser un élastique sur la poche qui va dans le dos du maillot.
Et après, il y a de la fierté de se dire qu'on a travaillé sur le maillot jaune.
Bien sûr, on est content quand on les voit à la télé.
Aujourd'hui, les maillots sont conçus en polyester et élastane. David Pécard est le directeur de l'usine de Romilly.
Bon, déjà, c'est des produits qui sont proches du corps, donc avec des matières très élastiques, puisque les coureurs ne veulent pas avoir de prise au vent. Donc à la coupe, quand vous êtes sur une matière qui est comme du chewing-gum, c'est beaucoup plus difficile à maîtriser.
On est bien loin des maillots qu'a connu le dernier vainqueur français du Tour, Bernard Hinault.
J'ai couru avec des maillots en laine, il pleuvait, ça sentait le phoque comme c'est pas possible. Et puis il y a eu l'évolution des nouveaux matériaux qui sont arrivés et aujourd'hui on a des choses qui sont magnifiques.
Autre innovation cette année du centenaire, le maillot jaune présentera chaque jour une photo différente imprimée sur le tissu. Parmi les photos sélectionnées, Hinault, Merckx, Anquetil ou encore le col du Tourmalet et le Galibier.
Axel May dans l'Aube pour Europe 1.
Et à 7h45, le consultant d'Europe 1 pour le Tour, Thomas Vauclair sera mon invité pour l'interview de la matinale.
Et puis on connaît désormais l'affiche de la finale du mondial féminin de foot. Ce sera États-Unis, Pays-Bas dimanche à Lyon. Les Néerlandaises qui hier ont éliminé les Suédoises 1-0 après prolongation.
C'est notre avant-dernier journal ensemble.
Oui.
Bon, à demain à 7h, c'était un plaisir.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 7h11, on continue avec Martin Fenot sur le terrain, Nico, comme chaque jour.
Alors vous êtes où Martin ce matin? Bonjour.
J'entends. Bonjour Nico. Oui, je vous appelle depuis le fond d'un canyon. Oui. Je suis au pied d'une chute d'eau et cette rivière agitée là que vous entendez, c'est le Zoïcou en Haute-Corse. Mm-hmm. Une succession de trous d'eau et de cascades, un terrain de jeu idéal pour les amateurs de canyoning. Il y a un an, mm-hmm. un drame s'est joué ici même. Le niveau de la rivière est monté soudainement. 5 personnes sont mortes noyées. Ça a été un vrai traumatisme pour les guides locaux. Et depuis, Jean Rochelos a repensé la sécurité lors des sorties qu'il organise dans le canyon. Il m'a montré là notamment des câbles et des barreaux qu'il a fixés dans la roche pour évacuer en cas d'urgence.
C'est pour pouvoir sortir de l'axe de la rivière, c'est-à-dire là où l'eau coule. Et du coup, on a ces câbles qui nous permettent de partir sur les côtés. Alors on est un peu accroché au-dessus du vide, mais on est à l'abri, on est sorti de l'axe de la rivière et on a fait en sorte ensuite de pouvoir récupérer des sentiers dans la montagne pour pouvoir rentrer sans même avoir besoin de faire appel à des secours.
Et d'où vient le danger sur ce type de canyon qu'on comprenne, Martin ?
Alors, il y a tous les risques liés à la pratique même du canyoning, hein, une entorse, un choc sur un rocher, mais les groupes sont encadrés, ils sont équipés de gilets de sauvetage. Non, le véritable danger, c'est la météo.
L'année dernière, on a eu une saison vraiment très particulière avec énormément d'orages. Moi, en 17 ans d'expérience, on n'avait jamais eu une saison comme ça. J'espère qu'on n'en aura pas d'autres. Mais forcément, dès qu'on va avoir les premiers orages qui vont arriver, bon, forcément, on y pense. C'est quelque chose qui, en Corse, n'était jamais arrivé. Donc forcément, je veux dire, ça trotte dans la tête, quoi.
Alors les guides sont en train là en ce moment de mettre en place aussi un nouveau système d'alerte en cas d'accident par talkie-walkie, parce qu'ici on est en pleine montagne, hein, et dans les 73 canyons que compte la Corse, bah, il n'y a pas toujours de réseau téléphonique pour appeler les secours si besoin.
Évidemment, et la sécurité en canyoning, c'est forcément une préoccupation en Corse, où 50 000 personnes pratiquent cette activité chaque été. Merci Martin Fenot, à demain.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre, l'édito éco signé Nicolas Barré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nico, et je vous parle de voitures électriques. Pourquoi est-ce que les Européens n'en veulent pas?
C'est une bonne question. La réponse, dans quelques instants. À 7h20, la passion des Français pour la culture japonaise. Manga, gastronomie, voyage, la mode nippone cartonne. Dossier complet dans Europe 1 va plus loin. Bon réveil à tous.
Il est 7h15, les principaux titres de l'actualité à venir ce matin, Nico Saliagas.
Les ventes de voitures électriques vont-elles enfin décoller? Réponse dans quelques instants avec Nicolas Barré. 2,7 milliards d'utilisateurs concernés. Facebook annonce ce matin un retour à la normale après une énorme panne qui a également affecté Messenger, Instagram, WhatsApp. Et puis en France, Jean-Michel Blanquer se veut rassurant. Le ministre de l'Éducation promet que tous les candidats au bac connaîtront leurs résultats demain. Certains correcteurs retiennent environ 100 000 copies au total. En Italie, le volcan Stromboli, situé sur une île éolienne, est entré en éruption. Un randonneur a perdu la vie. Il y a plusieurs blessés légers. 70 personnes ont dû être évacués. Le mondial féminin, les Pays-Bas qualifiés pour la finale de dimanche face aux États-Unis. Les Néerlandaises ont éliminé les Suédoises après prolongation. À Buazion.
Europe 1.
7h16, c'est l'heure de l'édito éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos.
Mais qu'est-ce qui se passe avec les voitures électriques? Est-ce que les ventes vont enfin décoller? Beaucoup de constructeurs en doutent, Nicolas.
Oui, et d'ailleurs c'est l'un des patrons de BMW qui vient de lancer le pavé dans la mare en disant il n'y a aucune demande pour ces voitures électriques en Europe. Selon lui, les seuls endroits dans le monde où on demande vraiment des voitures électriques, bah, c'est la Californie et la Chine. Alors évidemment, oui, c'est un peu caricatural, mais c'est vrai, le marché est quand même très limité en Europe, ça représente seulement 1,7% du marché avec deux modèles 100% électriques en tête, la Tesla Model 3 et la Renault Zoé. On arrive à un peu plus, à 3,3% du marché si on ajoute les hybrides rechargeables qui fonctionnent à moitié à l'essence, mais enfin vous voyez, ça reste très faible.
Alors tout le monde loue effectivement les avantages de la voiture électrique, mais les consommateurs n'accrochent pas. Qu'est-ce qui se passe en vrai?
D'abord à cause du prix. D'ailleurs, c'est bien simple, les seuls marchés vraiment dynamiques où ça commence un peu à décoller, c'est ceux où il y a le plus de subventions. C'est-à-dire la Norvège, ça représente un tiers du parc là-bas, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France. Chez nous, par exemple, le marché a bondi de 46% sur les 6 premiers mois de l'année. Ce type de véhicule électrique et hybride pèse désormais 2,5% des ventes neuves, mais enfin, ça reste quand même des petits chiffres. Oui. Le marché français, c'est 2 millions de voitures par an. L'électrique et l'hybride, c'est 40 000 sur ces 2 millions. Donc, le prix reste un frein majeur. Et puis, il y a bien sûr l'autonomie. On atteint couramment en ce moment des autonomies autour de 400 km. Sauf que si vous mettez la clim ou le chauffage, évidemment, c'est moins. Et du coup, les automobilistes, ça les rebute. Et puis enfin, les constructeurs pointent le manque de points de recharge.
Ça, c'est un souci.
Et ils demandent au pouvoir public d'agir, mais ça prend du temps.
Et ce qui manque aussi peut-être, Nicolas Barré, c'est tout simplement le choix.
Il n'y a
pas encore beaucoup de modèles.
L'offre est quand même très limitée. Ce ne sont pas toujours des modèles très sexy, il faut bien le dire. Et puis, alors, on attend quelques nouveautés cet automne, avec une nouvelle Zoé, avec une 208 électrique et puis une Opel Corsa également. Les constructeurs mondiaux ont prévu d'investir quand même 164 milliards d'euros dans l'électrification de leur gamme d'ici 2023. Donc ça va finir par se voir dans l'offre. Mais encore faut-il qu'ils y croient. Car à écouter BMW, le vrai décollage du marché risque de prendre beaucoup plus de temps que prévu.
Toujours câblé et connecté à l'actu économique. Nicolas Barré pour l'édito Éco.
Europe 1. Nikos Aliagas.
Il est 7h18, Europe 1 va plus loin. Ce matin, Nikos, on s'intéresse au succès du Japon en France.
Alors oui, on s'y intéresse parce que la Japan Expo commence aujourd'hui. C'est un salon qui est dédié au Japon, vous l'avez compris. Il se tiendra jusqu'à dimanche au parc des expositions de Paris Norville Pinte. C'est le plus grand du genre en Europe avec 250 000 visiteurs chaque année. Bonjour Pierre Bulot.
Bonjour Nikos.
Alors cette fièvre japonaise, elle est portée par le succès du manga.
Oui Nikos, il faut savoir que la France est le deuxième pays qui consomme le plus de mangas au monde derrière le Japon. Près de 17 millions de volumes vendus chez nous l'an dernier d'après l'Institut de recherche GFK. Un record. Résultat, aujourd'hui, de très nombreux jeunes Français grandissent baignés dans la culture japonaise. Ça crée un genre de cercle vertueux, explique Mathieu Pinon, l'auteur de Téléportation Japon.
Quand ils lisent Naruto, auquel ils ont très facilement accès n'importe où, même en médiathèque, gratuitement, et quand ils voient manger son bol de ramen, ça les fascine. Et ben donc, on est curieux de savoir ce que c'est que les ramen. Et le ramen, c'est le plat de nouilles qui est l'équivalent du jambon beurre pour l'homme d'affaires pressé au Japon. Et ils veulent savoir quel goût ça peut avoir, un bol de ramen. Et donc, quand ils vont se retrouver sur un festival, ils veulent acheter leur bol de nouilles. Ils veulent quelque chose qui vient du Japon, qui soit concret.
En fait, on peut dire qu'en France, le manga, c'est la première porte d'entrée vers la culture japonaise, Pierre.
Exactement. Si on garde l'exemple que l'on vient d'entendre, le jeune qui va vouloir manger dans un restaurant de ramen, il va y aller avec ses parents qui eux-mêmes vont s'intéresser par exemple à l'estampe ou à la calligraphie accrochée au mur du restaurant, jusqu'au jour où toute la famille part en vacances au Japon. Trois années. Trois chiffres, 1998, 87 000 touristes français partent au Japon. 2010, ils sont 150 000, alors que l'an dernier, ils étaient plus de 300 000. Un nouveau record. Je vous propose d'écouter Thomas. Il est en train de boucler sa valise, il part demain pour la première fois au Japon. Lui a suivi le schéma qu'on vient d'évoquer, avec un point de départ légèrement différent.
D'abord, je me suis intéressé aux jeux vidéo, en général pas forcément japonais, et puis comme c'est des communautés liées, je me suis aussi intéressé aux mangas, aux animés. En découvrant ça, je me suis dit m'intéresser au Japon en général, à la culture japonaise plus large. Je vais faire un stage linguistique pour approfondir la langue, parce que j'ai commencé à apprendre cette année, donc je suis encore un peu débutant.
Voir du Japon, ça donne envie de voir en vrai.
Ouais, forcément, parce que c'est une culture riche et ça donne envie de creuser ça, et le meilleur moyen, c'est d'y aller en vrai.
Oui, et la conséquence de cette fièvre japonaise, c'est aussi que ça nous inspire, Pierre.
Et oui, combien de nos plus grands chefs étoilés sont revenus du Japon avec du yuzu, cousin nippon du citron, dans leur valise? Pareil pour nos dessinateurs de la BD, on est en train de passer à notre tour au manga. Et vous savez quoi, Nikos? On commence à être bon. J'ai rencontré hier Tony Valente avec son éditrice Elise Storm. Sa série Radiante est publiée au Japon et même adaptée en dessin animé. Une première pour un manga français.
C'était une super consécration. Et puis après tout le reste, tous les autres pays aussi. Ça, j'espérais pas être vendu dans autant de pays. Plus d'une quinzaine de pays maintenant, c'est sur tous les continents. Et ça tient, en fait. C'était pas... Moi, je me disais, bon, on va se casser la gueule d'une manière internationale. Et en fin de compte, c'est la meilleure vente de plusieurs des éditeurs étrangers.
En fait, on est présent sur tous les continents. Et là, d'ailleurs, on vient aussi de signer toute l'Amérique latine. Je voulais te l'annoncer. Chili, Argentine, machin, voilà. Tout partout, en fait.
Et Tony, t'es pas encore au courant?
Ben non, voilà. Surprise.
Ça fait quelques pays de plus, ça change quelque chose pour vous?
Il faut apprendre l'espagnol, du coup.
Voilà pour le succès planétaire du manga français Radiante, et il pourrait bientôt y en avoir d'autres. Les échanges franco-japonais vont sans doute battre de nouveaux records dans les années à venir, puisque des millions de Français vont découvrir le pays du soleil levant à la télé, avec la Coupe du Monde de rugby en septembre et les Jeux Olympiques l'été prochain.
En attendant, pour découvrir la culture japonaise, rendez-vous jusqu'à dimanche au Japan Expo, au parc des expositions de Paris, Norville-Pinte. Merci Pierre Bulot pour ce dossier signé. Europe 1 va plus loin.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre, l'innovation avec vous, Anissa Mbida. Bonjour.
Bonjour Nikos.
Ce matin, des paquebots qui ne polluent pas ou presque plus?
Qui ne polluent plus, carrément plus, parce que justement, ils vont faire comme les voitures, ils vont passer à l'électrique et à l'hybride. Il va y avoir une petite vapeur d'eau qui va sortir du fumier.
J'espère que ça marchera mieux que ce que nous disait Nicolas Barré. Hein, bon,
j'espère aussi.
À tout de suite, j'ai hâte d'écouter vos explications.
Et vous pouvez réagir ce matin comme chaque matin sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Il est 7h24, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour avec Anissa Mbida.
On en parlait encore récemment sur notre antenne, les villes portuaires comme Marseille par exemple sont asphyxiées par la pollution des cargos, mais Anissa, vous arrivez avec de bonnes nouvelles ce matin, les premiers paquebots et les premiers ferries verts qui débarquent.
Oui, oui, et c'est d'ailleurs aujourd'hui même que sera mis à l'eau le premier paquebot électrique, hybride, c'est-à-dire qu'il aura un moteur mi-diesel, mi-électrique, exactement comme certaines voitures aujourd'hui. Et ça lui permettra de voguer pendant une heure, carrément une heure, le long des côtes sans la moindre pollution. Il pourra arriver à accoster justement et rester à quai sans avoir ce panache de fumée qui sort. Alors, c'est pas un géant des mers, vous savez, comme les immeubles flottants qu'on voit aujourd'hui en Méditerranée, mais il fait quand même 140 mètres de long. Il transporte 500 personnes, il y a 300 cabines à peu près, et il sera utilisé pour les croisières dans les fjords norvégiens par l'armateur qui s'appelle Ur.
Vous avez un très bel accent norvégien. C'est pas mal, mais bon, il y a encore un peu de diesel. Ça existe des paquebots 100% électriques, Anissa?
Alors non, mais ça existera peut-être jamais, tout simplement parce que ça fonctionnerait sur batterie, et donc il faudrait régulièrement recharger ces batteries. Or, un paquebot, vous savez que ça peut passer plusieurs semaines en mer, sans la moindre prise à l'horizon. On a déjà du mal à tenir la journée avec son téléphone portable, son tout petit téléphone, donc imaginez un immense paquebot. Ouais. En revanche, ce qui existe déjà, ce sont des ferries 100% électriques, vous savez, qui transportent à la fois des hommes et des bateaux. Là encore, la plupart sont en Norvège, où on fait très attention à la pollution de l'air dans les fjords. Mais à cause des batteries, bah, ils fonctionnent que sur de toutes petites distances.
Oui, alors il y a quand même des bateaux de plaisance qui fonctionnent avec le solaire. Ça, ça existe à 100%. Oui. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Mais quand vous dites petit, c'est combien petit au niveau du trajet?
Alors petit, c'est une centaine de mètres à peine, donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc on attend avec impatience des ferries qui fonctionneraient à hydrogène cette fois. Ils vont arriver l'année prochaine, et là on pourra parcourir plusieurs kilomètres, plusieurs dizaines de kilomètres, avec des centaines de voitures à bord, avec des centaines de passagers, mais en ne rejetant qu'un joli panache blanc de vapeur d'eau plutôt que des fumées noires toxiques bourrées de soufre et d'oxyde d'azote.
On estime que les émissions d'origine maritime seraient responsables chaque année de 60 000 morts. C'est considérable.
Oui, c'est considérable. Mais c'est extrêmement polluant, le fioul lourd qui est utilisé par la marine aujourd'hui.
Anissa Mbida pour l'innovation du jour. Merci.
L'innovation du jour avec EDF. Mieux produire et mieux consommer chaque jour pour contribuer à la transition énergétique. Retrouvez dès maintenant plus d'informations sur EDF.fr. Dans un instant, on retrouve Céline Kallmann pour son journal. Mais tout de suite, le point sur la météo avec Laurent Cabron.
Et Laurent Cabron qui nous disait en ouverture de cette matinale que les températures maximales, ce sont toujours celles de Nîmes.
Oui, toujours
37,
Nîmes.
37, vous disiez-vous?
37 degrés, oui. 37 degrés à Nîmes, aujourd'hui 35 à Toulouse, ce qui est pas mal, 34 à Biarritz, là ça remonte à Biarritz, il a fait frais ces temps derniers, 33 à Bordeaux et Nantes, 32 à Marseille, Lyon, Rennes, Clermont, Bourges, Dijon, Nice, 31, 30 à Besançon, 29 degrés à Paris et Colmar, à Verdun et Sedan entre 27 et 28, Lille 25, Caen 23 et Dunkerque 19.
Le plus frais à Dunkerque.
Oui, oui. Alors ceux qui sont en vacances sur les bords de l'Atlantique ont bien de la chance. Et on est en vacances maintenant, on a passé le 1er juillet. Hein, ouais. Puisque le soleil est là pour tout le monde sur les côtes atlantiques, avec des températures de 30 à 34 degrés sur le sable. Là vraiment, ça sera très très sympa.
Superbe.
Et la température de l'eau de mer est entre 18 et 20. Donc ça veut
pourquoi
dire...
Pourquoi partir loin quand on a tout chez nous?
Voilà, c'est ce qu'un grec vous dit. Bien, c'est bien.
lui qui montrait l'exemple.
Vous pouvez aller aussi en Grèce, hein. ça n'empêche pas l'autre.
Donc, c'est une journée ensoleillée, bien sûr, à quelques nuages sur le Poitou-Charentes à l'intérieur des terres, comme sur l'Aquitaine à l'intérieur des terres, des orages sur les massifs montagneux, Pyrénées, Cévennes, les Alpes, mais du soleil en général. Et surtout, pour ceux d'entre vous qui sont en ville, ce petit air de nord-est, un petit vent qui fait du bien, parce que c'est lui qui rafraîchit l'atmosphère.
On dort mieux.
Il souffle à 40 km/h. Et ma foi, c'est quand même très agréable pour que la chaleur soit supportable.
Soit contenue.
Je vous dirai tout à l'heure ce qui va se passer sur le reste de la semaine, vendredi, samedi. Vendredi, ce sera du soleil, sauf quelques passages nuageux, mais très dans l'ensemble assez disparates. Mm-hmm. Et 36 à 38 en ce qui concerne les températures dans le sud-ouest et la vallée du Rhône. Voilà. On verra ça plus tard pour le reste et pour le week-end et pour la semaine prochaine qui s'annonce beaucoup moins souriante.
Merci, mon cher Laurent Cabrol.
À suivre, Nikos.
Ben, le Premier ministre, Édouard Philippe, en Corse, avec un dialogue compliqué avec les élus nationalistes. Ce sera l'édito de Jean-Michel Abatier à 7h40. 7h43, Axel de Tarlé, les investisseurs étrangers aiment venir en France. Mais pas la main d'œuvre, il nous dira pourquoi. Et à 7h45, le Tour de France qui démarre samedi. Et cette journée pourrait sourire à un Français, cette année pourrait sourire à un Français. Mon invité, ce sera Thomas Vauclair, qui sera consultant Europe 1 tout au long des 3 semaines de la Grande Boucle. Excellent réveil à tous.
Oui, Nico, attendez, j'aime bien ça. Alors, je veux écouter le brief.
Vous avez demandé les infos ?
Ok. J'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi.
Je suis stupéfait de votre entrée en la matière.
Oui, c'est le brief Europe 1. Votre flash d'information disponible sur toutes les enceintes connectées, plusieurs actualisations par jour et un format magazine le week-end. Les infos du quotidien avec un ton décalé. Le brief Europe 1 est disponible sur vos enceintes connectées, mais aussi sur Europe1.fr et notre application mobile. Mais vous savez quoi, Nikos ? Comme non. Il est 7h30, je pense qu'en point d'information, on est pas mal là parce qu'il y a Céline Kalman.
Elle est dans le studio, elle porte du vert, il paraît que ça porte bonheur. Bah, à tout de suite.
7h, 9h. Nikos Aliagas sur Europe 1.
Bonjour Céline Kalman.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Nikos Aliagas, s'il vous plaît. Merci.
Comme tous les étés, vous serez très nombreux sur les routes de France. Des départs prévus dès demain pour les plus chanceux. C'est le début des vacances scolaires. Bison futé prévoit rouge en région parisienne orange. Samedi à travers tout le pays. Et ce constat inquiétant, les mauvaises habitudes au volant se multiplient. C'est ce qu'indique l'observatoire annuel de la SANEF qu'Europe 1 vous dévoile ce matin. Et Pierre Herbulot a pu le constater très concrètement auprès de ceux qui font tout pour sécuriser votre parcours, les agents de sécurité. Reportage sur l'autoroute A13 à Bourrachard en Normandie.
Ce bruit, c'est celui d'un camion de 40 tonnes lancé à 90 km/h. De quoi faire trembler une voiture arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence et aspirer d'un souffle n'importe quel piéton. Le quotidien de Philippe, patrouilleur pour la société d'autoroute SAPN. Il a vu la mort de très près il y a quelques mois quand un poids lourd a percuté son véhicule.
Il est rentré dans mon camion, il l'a projeté 70 mètres. Ça a été un choc très très violent. Avec le bruit, on l'a entendu, on a pu passer derrière la glissière de sécurité, mais à vitesse plus haute et on aurait pu être percuté. Là, on se dit, c'est pas le jour. Hein.
Des accidents comme celui-là, il y en a chaque semaine. Ce qui pousse Guillaume Mutel, le chef du centre de Bourrachard, à appeler les automobilistes à la responsabilité en ce début d'été.
Pensez aux gens qui sont derrière ces véhicules ou dans ces véhicules, qui sont à votre service. Il y a des familles, il y a des humains, et il faut absolument garder sa vigilance. C'est indispensable.
Un nouvel article du Code de la route oblige d'ailleurs les automobilistes à se décaler d'une voie chaque fois que les patrouilleurs sont en opération. Une loi qui, bien entendu, n'est pas respectée.
Reportage est signé Pierre Herbulot. Un drame insupportable à Saint-Denis. Une jeune femme de 20 ans qui était enceinte de 3 mois est morte hier, frappée à mort par son conjoint de 22 ans qui a été placé en garde à vue. C'est un voisin qui a prévenu les secours après avoir entendu des cris. La victime avait la veille déposé une main courante auprès de la police. C'est le 71e féminicide en France depuis le début de l'année. Écoutez Anne-Cécile Melfer, elle est présidente de la Fondation des Femmes. Elle se demande ce matin pourquoi ce drame n'a pas pu être évité.
C'est une tragédie pour cette femme et c'est une tragédie pour ses proches. Ce qu'il faut regarder, c'est effectivement qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui ne s'est pas passé. Dans ce cas-là, comme dans d'autres cas, qu'est-ce qui ne s'est pas passé pour l'avoir mieux protégée. Elle est venue la veille déposer une main courante, donc elle a alerté dans une certaine mesure. Est-ce qu'on n'aurait pas dû plutôt l'orienter vers une plainte qui aurait déclenché une procédure ? Est-ce qu'on n'aurait pas dû la mettre en contact avec une association qui aurait pu l'accompagner? Est-ce qu'on n'aurait pas dû lui proposer d'appeler le 3919 pour pouvoir être hébergé en urgence? Qu'est-ce qui s'est passé? à quel moment est-ce qu'on a tout fait pour la protéger ou pas? Ça, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui et qu'on doit se poser à chaque fois qu'il y a un nouveau féminicide. Est-ce qu'on a tout fait pour la protéger ?
Anne-Sophie Melfer, interrogée il y a quelques instants par Claudia Bertram pour Europe 1.
5 candidats au bac étaient toujours en garde à vue hier soir.
Oui, dans l'enquête sur les soupçons de fraude concernant les épreuves de maths, par ailleurs, Jean-Michel Blanquer a assuré que tous les élèves auraient le résultat du bac demain, comme prévu, et cela malgré la grève des correcteurs. En fait, ce sont les notes de contrôle continu qui seront prises en compte si les copies ne sont pas rendues à temps. Une décision surprenante de Washington. Hier soir, les États-Unis ont empêché l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de condamner unanimement l'attaque d'un camp de détention de migrants en Libye. 44 personnes sont mortes. Un raid attribué aux forces du maréchal Haftar qui tente de prendre Tripoli. Les ONG demandent à l'Union européenne d'agir au plus vite. Jean-Sébastien Soldaini.
Les ONG considèrent que les migrants sont piégés en Libye, torture, esclavage et maintenant cible de bombardement. Walid Al-Houderi représente la Commission libyenne des droits de l'homme et il dénonce une hypocrisie de Bruxelles.
Il faut que l'Union européenne prenne ses responsabilités parce qu'on ne peut pas d'un côté dire voilà, on va punir et on va condamner et dire que c'est incroyable. Et bon, voilà, ces gens-là, je pense qu'ils auraient été beaucoup plus en sécurité si c'était en Europe.
Trop de blocages, trop de quotas imposés par l'Europe. Assibadj Sahraoui est conseillère aux affaires humanitaires de Médecins Sans Frontières et elle estime que l'évacuation des migrants de Libye est tout à fait faisable.
Et maintenant, je crois qu'on a perdu assez de temps. On ne parle pas de centaines de milliers de personnes. La demande n'est pas déraisonnable dans la mesure où on parle de quelques 3000 détenus à Tripoli et quelques 5000 détenus dans les différents centres de détention pour migrants et réfugiés en Libye.
L'Italie a déjà accepté une évacuation cette année, mais Rome n'est pas connue en ce moment pour sa politique favorable aux migrants. Du coup, elle attend plus d'efforts des autres pays européens.
Jean-Sébastien Soldaini pour Europe 1. En Italie, le volcan Stromboli est entré en éruption, surprenant tout le monde. Un randonneur a été tué. Il y a également plusieurs blessés légers. 70 personnes ont dû être évacuées.
Les amoureux de théâtre attendent ce rendez-vous toute l'année. On parle du Festival d'Avignon.
Oui, ça démarre ce soir. Ça va durer tout le mois de juillet avec à l'affiche plus de 1500 spectacles dans le In et dans le Off, c'est un record. Nathalie Chevance s'est baladée dans les petites ruelles de la Cité des Papes pour Europe 1.
Sous un soleil de plomb, les premiers festivaliers déambulent à la recherche des meilleurs spectacles. Isabelle, une habituée, aime se perdre dans les ruelles avec une panoplie indispensable.
Déjà, il faut s'apprêter à lutter contre la chaleur. Il faut de l'eau, un coussin. Parce que parfois, dans les petits théâtres, on n'est pas forcément bien assis. La ville, toute pleine d'effervescence, là, avec tous ces théâtres, dans tous les coins de rue, sur toutes les places. Plein de choses à découvrir et le bouche à oreille fonctionne pas mal.
Et dans la rue, la guerre des affiches a commencé à la recherche du moindre espace pour attirer le public. Frédéric, comédien, emploie les grands moyens pour se faire voir.
Comme on a notre échelle à roulette, eh ben on peut utiliser un peu la hauteur. Eh ben on est en train d'afficher. On va essayer d'y passer une partie de la journée, en tout cas, sous le cagnard. Mais il faut ça pour faire Avignon. C'est la passion.
Et celle aussi des festivaliers. Certains ont un programme très chargé, comme Nicole, avec ses deux petits-enfants qui viennent de loin pour aller au spectacle.
On va essayer d'en faire deux par jour, mais spécifique pour les petits qui ont 6 et 7 ans. Nos petits-enfants vivent à New York. C'est une manière de leur faire découvrir la France. J'espère qu'ils vont garder un bon souvenir.
Plus de 150 000 visiteurs attendus, près de 6 000 artistes pour vibrer avec la parade du Off ce soir pour le coup d'envoi. Avignon, Nathalie Chevance, Europe 1.
Magique le Festival d'Avignon. À Lyon dimanche, les États-Unis affronteront donc les Pays-Bas en finale de la Coupe du Monde féminine. Les Pays-Bas qui ont battu la Suède 1-0 après prolongation hier soir.
Eh bien écoutez Céline Kallmann, je vous remercie et je vous dis à demain pour notre dernière. Merci beaucoup.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Dans quelques instants, Jean-Michel Apathy nous emmène en Corse.
Oui, exactement, parce qu'Édouard Philippe est en Corse, le Premier ministre. C'est la première fois depuis qu'il est à Matignon. Il est arrivé hier, il y est encore aujourd'hui. Mm-hmm. Il a distribué pas mal d'argent, il a fait pas mal de promesses. Et en Corse, personne n'est content. C'est ça la Corse et c'est ça la France.
Vous nous direz pourquoi. Axel de Tarlé, est-ce que les investisseurs étrangers aiment notre pays?
Alors, vous savez que la France a la cote à l'étranger. Sauf que quand on interroge les salariés étrangers qui travaillent en France, bah eux, ils déchantent et ils nous trouvent beaucoup de défauts.
Ah bon ? Pourquoi ?
Revue de détail, bah vous allez voir.
Apathy Tarlé, c'est dans un instant sur Europe 1.
Il est 7h37. Il est 7h38, Nico Saliagas, on retrouve Jean-Michel Apathy.
Édouard Philippe est en Corse, le Premier ministre tente de renouer le dialogue avec les élus nationalistes qu'il a rencontrés hier. Mais c'est pas si simple, Jean-Michel Apathy.
C'est même très difficile. Chacun savait d'ailleurs que c'était impossible au départ. Mais enfin, Édouard Philippe essaie, et il fait comme tous les premiers ministres qui ont été en Corse avant lui, c'est qu'il arrive avec plein d'argent dans les poches. Ah. Il distribue plein d'argent à différentes catégories sociales, financer les projets. Et c'est pas une nouveauté, parce que je me souviens, moi, d'avoir fait un voyage avec Alain Juppé, Premier ministre, juillet 1996. Dingue. Il avait les poches pleines. Il en donnait à tout le monde et personne n'était content. Alors, j'ai retrouvé cette citation. Alain Juppé avait dit devant l'Assemblée territoriale de Corse « J'ai comme vous conscience que l'heure est grave. » L'heure est toujours grave en Corse. C'est jamais apaisé. Et quand il était reparti, les élus corses du jeu, oh, vraiment, c'est pas bien cette visite. Eh bien, 23 ans plus tard, rien n'a changé.
Comment vous l'expliquez ?
Ah, l'expliquer, alors ça, les explications, c'est dans la psychologie corse. Si je m'y risque, j'en ai pour 3 heures. Ouais. En revanche, Édouard Philippe hier a annoncé un PEI, un plan exceptionnel d'investissement pour l'île, qui va remplacer le PTIC, qui était un plan de transformation et d'investissement pour la Corse. Alors, ça fait beaucoup d'argent, on ne sait pas combien exactement. L'État va financer des projets... Pas financer, pardon. L'État va subventionner des projets à hauteur de 80%. Alors, il y a quelques millions sur la table, on ne sait pas exactement si c'est par dizaines ou par centaines qu'il faut chiffrer tout ça, mais enfin, c'est quand même un effort que l'État fait pour la Corse, et quand on sait qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, eh bien, c'est quand même pas mal. Comment réagissent les élus corses ? Figurez-vous que Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif de Corse, était l'invité d'Europe 1 hier soir. Écoutez-le.
Pour un dialogue, il faut être deux. Pour l'instant, me semble-t-il, les réponses apportées par le Premier ministre ne sont pas à la hauteur de nos attentes et ne sont pas aussi à la hauteur des enjeux.
Et voilà, pas content, jamais content. Et ça m'a remis en mémoire autre chose. Septembre 2007, un autre Premier ministre, François Fillon, lui aussi était parti en Corse, les poches pleines, et personne n'était content. Et le François Fillon, le placide François Fillon, s'était énervé. Une phrase historique, on s'en souvient.
Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier.
Eh oui, rien n'a changé. L'État est toujours en faillite. La Corse est toujours pas contente. On ne sait pas comment en sortir. Mais on adore ça.
Conclusion,
il faut croire.
Conclusion, c'est la boucle, c'est l'histoire qui se répète, c'est ça ?
Conclusion, c'est une histoire qui ne finira jamais. Et c'est ça qui nous gardera jeunes.
Merci Jean-Michel Apathy pour l'édito politique. Axel de Tarlé. Les investisseurs étrangers aiment venir en France. Notre pays a plutôt la cote à l'étranger, mais pas la main d'œuvre, ce qui pose un problème.
Oui, effectivement, on l'a dit, la France est devenue très attractive pour les entreprises, pour les décideurs. Notre pays a la cote à l'étranger, on est même dans le top 5 mondial. Sauf que, si on pose la même question, alors non plus aux grands patrons, mais aux salariés, aux travailleurs, on leur demande, étrangers, dans quel pays aimeriez-vous venir travailler ? Eh bien là, la réponse est toute différente. Nous sommes nettement moins bien classés. La banque HSBC a interrogé 18 000 salariés expatriés dans le monde en leur demandant quelle est votre destination de choix. Dans quel pays aimeriez-vous travailler ? Eh bien là, sur une liste de 33 pays, la France ne pointe qu'à la 17e place mondiale. Ah bon ? Donc on est très loin derrière la Suisse qui est numéro 1, le Canada, l'Espagne ou l'Allemagne.
Mais qu'est-ce qu'on nous reproche ? Pourquoi notre pays n'attire pas les travailleurs étrangers ?
Eh bien écoutez, des choses qu'on entend très souvent. D'abord en France, on n'est pas spécialement bien payé. Alors si, le coût du travail est élevé, donc le salaire super brut est élevé. Mais une fois que vous enlevez les cotisations patronales et salariales, eh bien à la fin, le salarié déchante.
Les impôts.
Deuxième reproche, en France, le monde du travail est sclérosé. Et si vous êtes jeune, que vous en voulez, que vous venez de l'étranger, eh ben vous avez, en France, on va s'apercevoir que c'est très difficile de monter rapidement dans la hiérarchie. Donc vous voyez, que ce soit pour votre carrière professionnelle ou pour vos finances, la France est jugée en dessous de la moyenne. Plus surprenant, du point de vue personnel maintenant, pour le style de vie, eh bien là aussi, la France est jugée peu attractive.
Pourquoi ?
Alors qu'on est persuadé qu'on est le pays du bien-vivre. Bah pourquoi ? Parce qu'en France, le logement est cher, les transports sont saturés, il y a des embouteillages, il y a des métros bondés. Alors, quand même, il y a un point positif, il y a un critère sur lequel la France est là, est numéro un mondial, c'est pour la vie culturelle. Mais les expatriés ne viennent pas, ils viennent en France pour travailler, pas pour aller au musée. Donc vous voyez, c'est un classement pas terrible, parce que si on se résume et en caricaturant, en France, on est mal payé, mal logé, avec peu de perspectives de carrière.
C'est un beau pays.
Mais oui, c'est un beau pays, mais finalement, quand on y pense, tous ces reproches, eh ben, c'est exactement ce qu'avaient adressé les Gilets jaunes, qui s'étaient plaints de la hausse du prix de l'essence, donc les transports, et qui s'étaient plaints de la baisse du faible pouvoir d'achat qui stagne, comme si, après avoir fait beaucoup pour améliorer l'attractivité de la France pour les entreprises, on avait un peu oublié les salariés.
C'était le Zoom Echo avec Axel de Tarlé, merci.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
J-2 avant le grand départ du Tour de France, ce sera samedi à Bruxelles et cette année, il pourrait sourire à un Français, on l'espère. Dans un instant, je reçois l'ancien maillot jaune, Thomas Vauclair. Il sera notre consultant Europe 1 pour toute la durée du Tour. A tout de suite.
Très belle matinée sur Europe 1, il est 7h43. Il est 7h44.
24, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
Tous les élèves auront leurs notes du bac demain. C'est ce qu'a assuré Jean-Michel Blanquer, alors que des profs grévistes ont menacé de ne pas rendre les copies. En tout cas, en cas de notes manquantes, la note de la moyenne de contrôle continu dans la discipline concernée sera appliquée. Et puis le parquet de Paris a annoncé que 5 candidats étaient toujours hier soir en garde à vue dans l'enquête sur des soupçons de fraude sur les épreuves de mathématiques. 71e féminicide en France depuis le début de l'année, une jeune femme de 20 ans est morte hier en Seine-Saint-Denis. Elle était enceinte de 3 mois. Un homme a été placé en garde à vue la veille. La victime avait déposé une main courante contre son conjoint qui est âgé de 22 ans après ses violences conjugales. Le mondial féminin, on connaît l'affiche de la finale dimanche à Lyon. Ce sera Pays-Bas-États-Unis. Les Pays-Bas qui ont battu la Suède hier soir, 1-0. La tendance météo, on vous le dit depuis le début de la matinale avec Laurent Cabrol. Soleil pour tout le monde et des températures en hausse de 24 à 37 degrés. Température maximale à Nîmes.
La météo complète avec Laurent Cabrol, ce sera juste avant 8h. Europe 1. J-2 avant le grand départ du Tour de France et cette année, il pourrait bien sourire à un Français. Les équipes sont présentées aujourd'hui. Nikos, vous recevez ce matin l'ancien maillot jaune Thomas Voeckler, notre consultant Europe 1 pour tout ce Tour de France.
Bonjour Thomas Voeckler.
Bonjour à tous.
Le Tour de France s'élance samedi de Bruxelles. C'est un hommage au 50e anniversaire de la première victoire d'Eddy Merckx dans la Grande Boucle, hein, 1969 déjà. Aujourd'hui encore, on le considère comme le plus grand de tous les temps.
Ah oui, sans contestation possible. Hein. Tous les sondages qui quelquefois sont réalisés auprès des parties prenantes du vélo ou alors simplement des spectateurs ou téléspectateurs, c'est toujours le même résultat qui en ressort. Eddy Merckx est le plus grand coureur cycliste de tous les temps.
En quelques mots, qu'est-ce qu'il avait de plus ?
Mais il avait ce mental peut-être qu'avait ensuite Bernard Hinault, mais il était tout simplement le plus fort d'un point de vue physique. Et s'il a été surnommé le cannibale, c'est pas pour rien, parce qu'il n'était jamais rassasié. Il n'était jamais rassasié. Et autant j'aurais aimé courir à son époque pour le charme qu'il pouvait y avoir, autant j'aurais pas aimé courir avec lui parce que les mecs visaient la deuxième place.
Quoi. Il ne lâchait rien. C'est le tour du centenaire du maillot jaune. Vous l'avez porté, vous, hein, plusieurs fois. Dans quelle mesure ça peut changer une vie ? Qu'est-ce qu'on ressent quand on l'a sur les épaules et que la foule vous acclame tout au long du parcours ?
Eh bien, moi, je peux parler de mon expérience. Alors, moi, j'ai eu la chance de l'avoir 2 fois 10 jours. Moi, je compare ça un peu à un costume de super-héros. Ça peut faire sourire, mais quand on endosse le maillot jaune, on a l'impression qu'on a des ressources supplémentaires. Alors, elles ne sont pas forcément physiques, elles sont mentales. On est tellement poussé par la foule, on a tellement envie d'être digne de ce maillot qu'on va chercher des ressources et qu'on va plus loin dans la souffrance physique. Quoi.
Partir d'un pays étranger, ça devient plutôt régulier, ça fait rayonner le Tour de France dans le monde, mais au détriment parfois de régions françaises qui sont plus ou moins oubliées chaque année. Vous, par exemple, vous êtes installé en Vendée, Thomas Voeckler. Le Tour ignore le Grand Ouest pour cette édition 2019. Vous le regrettez ou vous le comprenez ?
Je le comprends tout à fait. Alors, il faut préciser que les départs à l'étranger ne datent pas d'hier. Déjà, il y a plusieurs dizaines d'années, ça arrivait. Maintenant, il faut reconnaître que depuis une quinzaine d'années, c'est quasiment tous les 2 ans. Mais le Tour est un événement maintenant qui est mondial au sens large. Mm-hmm. Donc, c'est normal qu'il s'exporte pour les départs. Du moment que c'est limitrophe, moi, ça ne me choque pas tant que la récupération et ce qu'on demande aux coureurs n'est pas en jeu. Pour ce qui est de l'Ouest, c'est vrai qu'il ne passe pas du tout dans l'Ouest cette année, mais il y a une explication aussi à ça, c'est que l'année dernière, il est parti de Vendée et il a fait la part belle à l'Ouest, au détriment d'autres régions de France. Donc, pour avoir discuté avec les organisateurs, ils essayent, alors la France est un territoire magnifique, mais trop grand pour redemander aux coureurs de faire la totalité de la France, tous les départements, en une fois. Donc, tous les 3 ans, ils essayent que tous les 3 ans, chaque département, en gros, que chaque personne en France, à moins d'une heure de voiture, puisse aller voir les coureurs passer.
C'est quoi l'ADN de la boucle cette année ? Cette année, le tracé devrait favoriser les grimpeurs ? C'est la promesse d'un grand spectacle ?
Oui, d'autant plus que pour les personnes qui suivent l'actualité cycliste, le quadruple vainqueur du Tour de France, Christopher Froome, est ultra favori et a chuté à l'entraînement au cours du mois de juin et est forfait pour la grande boucle. Le second du Tour de France de l'année dernière, le Hollandais Tom Dumoulin, est forfait également. Le quatrième de l'année dernière n'est pas au départ. Et nos 2 Français, Thibaut Pinot et Romain Bardet, qui sont nos 2 meilleures chances de victoire pour le classement général de ce Tour de France, ne sont pas adeptes des contre-la-montre. Et ça tombe bien, il n'y en a qu'un seul individuel cette année, placé à 1 semaine de l'arrivée. Donc c'est un tour ultra montagneux qui convient très très bien pour avoir du spectacle. Après, il ne faut pas se le cacher, il y a toujours une équipe, même si Christopher Froome n'est pas au départ, on aura toujours la même équipe qui va tenter de dominer la course.
Oui, c'est vrai que ces dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de suspense avec l'ultra-domination de l'équipe Sky, et pourtant, il y a toujours autant, voire plus de spectateurs sur les bords des routes. Comment vous l'expliquez, vous, Thomas Voeckler ?
Moi, j'ai un petit peu cessé de chercher des explications. Je crois que c'est la magie du tour, tout simplement. C'est un spectacle gratuit. Tout le monde peut avoir accès aux plus grands coureurs du monde. On peut venir avec son fils, son petit-fils, voir passer le numéro 1 mondial, qui est français d'ailleurs, entre parenthèses, en ce moment, Julien Alaphilippe, à 50 cm du gamin. Quoi. Alors, c'est vrai que c'est un sport, c'est un sport gratuit où on va vers les gens, où les cyclistes vont vers les gens, passent devant le pas de leur porte, et ça, c'est unique. Et puis, bon, il y a aussi le contexte du mois de juillet, les vacances, qui fait que forcément, ça a un engouement supplémentaire. Mais bien sûr que le Tour de France, c'est la seule course cycliste qui dépasse le cadre, justement, cycliste et qui devient un événement mondial.
Ça crée du lien fort aussi. Alors, le Tour de France est sorti de ses problèmes de dopage. C'est dans tous les cas ce que disait le directeur du Tour, Christian Prudhomme, sur Europe 1 dimanche dernier. Mais il y aura sans doute des cas individuels, mais le dopage massif, comme à l'époque de Festina ou Lance Armstrong, on ne le verra plus jamais, selon vous, Thomas Voeckler ?
Alors, s'il faut être très prudent, et celui qui certifie qu'on ne le verra plus jamais, ça veut dire qu'il baisse un peu la garde, et là, on fait fausse route. Ce qui est clair, c'est que parce qu'il faut être vigilant, que le vélo qui a été montré du doigt à juste titre il y a de ça quelques années, maintenant peut être montré en exemple pour tout ce qui a été fait au niveau de la lutte antidopage, mais il ne faut surtout pas baisser pavillon et surtout pas baisser de rythme. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas changer l'état d'esprit de ceux qui ont envie de tricher. Et bien entendu qu'il y aura peut-être des cas de dopage qui vont sortir, mais l'état sanitaire du peloton est sans commune mesure avec ce qu'on a pu connaître il y a quelques années, ça c'est certain. Et je crois que les gens l'ont compris et c'est pour ça qu'ils continuent à suivre autant le Tour de France.
Alors, depuis plusieurs années, il n'y a plus de Tour de France féminin. Le directeur du Tour, Christian Prudhomme, nous disait qu'on ne peut plus l'organiser en même temps que celui des hommes pour des problèmes de logistique. Pour vous, il faut en remettre un, même à une autre période ?
Pour moi, le Tour de France féminin, c'est pas vraiment le centre du problème. Je pense qu'il faut surtout promouvoir le cyclisme féminin en général. Je suis tout à fait. Ça ne serait pas rendre service aux coureuses d'organiser un Tour de France féminin pendant le Tour de France masculin. Pourquoi ? Parce qu'il serait totalement. On ne le verrait pas médiatiquement, il faut être franc. Donc, je pense qu'il faut promouvoir le cyclisme féminin, qui a d'ailleurs et qui prend un bel essor, et notamment avec des nouveaux règlements qui permettront à toutes les coureuses cyclistes professionnelles d'avoir un salaire digne de ce nom à partir de l'an prochain. Donc, il faut promouvoir le cyclisme féminin dans son ensemble sans faire un focus vraiment sur le Tour de France, parce qu'il n'y a qu'un Tour de France, qu'un événement magique, et ça ne se construit pas comme ça juste sur des décisions ou une organisation de course d'une semaine.
Thomas Voeckler, vous venez d'être nommé sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme sur route. Et dès septembre, il y aura les championnats du monde dans le Yorkshire, au Royaume-Uni, puis les Jeux Olympiques à Tokyo en 2020. Est-ce que c'est raisonnable aujourd'hui de rêver à un titre ?
Oui, c'est raisonnable. Alors, l'année dernière, Romain Bardet a terminé deuxième d'un championnat du monde. On a le numéro un mondial qui est Julien Alaphilippe, qui est français. Et en fait, hormis le contre-la-montre individuel, quel que soit le parcours, on a les coureurs français qui figurent parmi les tout meilleurs mondiaux. Et donc, bien sûr qu'il faut, il faut rêver un titre. Ça ne veut pas dire qu'il viendra. Il faut tout faire, tout mettre en place pour avoir le maximum de chances de le décrocher. Maintenant, ça reste du sport. On a beau tout faire de la meilleure des manières. Le résultat, c'est pas aléatoire, mais on ne peut pas le savoir à l'avance, bien entendu. Mais les coureurs français ont les moyens d'être champion olympique et champion du monde.
Thomas Voeckler, depuis la Vendée, merci à François Coulon pour la liaison technique. Et Thomas, vous serez le consultant d'Europe 1 tout au long du Tour de France. On vous retrouvera tous les soirs de 19h à 20h dans Club Tour, présenté par Axel May. Merci.
À très vite.
Et on suivra ce Tour de France sur Europe 1 tout au long de la journée avec le journal du Tour chaque matin à 8h30. Allez-vous le suivre, ce Tour de France ? Avez-vous un favori ? Dites-le nous sur Twitter, hashtag Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre, cette enquête que vous révèle Europe 1 ce matin, le désamour des salariés d'Île-de-France pour la vie parisienne. Deux tiers d'entre eux disent vouloir tout simplement vouloir partir vivre en province. Détail dès le début du journal de 8h avec David Doucan. Et puis dans une petite minute, le Walkman qui fête ses 40 ans aujourd'hui, ça ne nous rajeunit pas. Évidemment, ça n'a pas échappé aux spécialistes de la bonnette orange. C'était les premiers Walkman. Jean-Philippe Ballas, à tout de suite.
Il est 7h55, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Jean-Philippe Ballas, un anniversaire ce matin, les 40 ans d'une invention qui a changé nos vies.
Je suis un petit boîtier bleu en plastique, je mesure un peu plus de 13 cm sur 8. J'ai un fil avec deux petits bouts de mousse orange qu'on met sur les oreilles. Je suis le tout premier Walkman. 1er juillet 79, la légende raconte que c'est le patron de Sony au Japon qui a demandé à ses ingénieurs de lui bricoler un petit lecteur cassette, histoire de pouvoir jouer au golf en musique. Oui, je vous ai mis Born to be Alive, ça met dans l'ambiance. Mais le plus fascinant, c'est de relire les reportages de l'époque. L'inquiétude des anciens face à cette jeunesse bizarre qui semble se couper du monde en pleine rue avec ses écouteurs. Des écouteurs qu'elle porte parfois en voiture, au volant. Oui, c'est pas encore interdit et c'est carrément dangereux. Et je dis que c'est fascinant parce que les griefs d'il y a 40 ans contre le Walkman, l'isolement, le côté zombie, ces griefs, je vous promets, sont quasi les mêmes aujourd'hui lorsqu'on parle des écrans et des smartphones. Ça aussi, c'est sorti en 79.
Super Trump.
Alors, mon Walkman à moi, je l'ai eu un peu plus tard. Je me souviens, il était jaune, il était étanche, ça j'y tenais. Je ne sais pas pourquoi, je n'allais pas nager avec non plus. Le top du top, c'était de faire du roller en même temps, sauf que j'ai toujours été une buse en roller. Ah, j'oubliais mon Walkman, il était auto-reverse. Progrès, mon petit bonhomme, ça moi c'était aussi quand même la grande classe. Alors, quand j'en parle à ma progéniture, elle me regarde un peu comme si j'allais sortir un selfie de De Gaulle à la Libération. C'est vrai que ça paraît loin, production définitivement arrêtée en 2010. On en a quand même vendu plus de 200 millions de Walkman à travers le monde. Et vous savez quoi ? En 79, déjà, on commençait à parler de la vidéo.
Comment s'appelait le groupe ?
Allez-y. Les Buggles.
Les Buggles.
Numéro 1 au hit parade d'Europe 1.
Et votre première cassette, c'était quoi ? D'artiste que vous avez acheté. Ça coûtait cher à l'époque, hein ?
Je crois que c'était un disque de Police que j'avais enregistré sur une platine.
Magnifique. Donc vous avez fait une copie d'un vinyle sur une cassette.
Et tout et tout.
Et moi, ma première cassette achetée, c'était, je crois, Thriller de Michael Jackson. Là, quelques années plus tard.
Bon
en fait. Merci beaucoup Jean-Philippe Ballas. Auto-reverse m'a fait voyager là ce matin. J'ai pris 30 ans d'un coup.
On va voir s'il est aussi auto-reverse. David Doucan, son journal arrive dans un instant.
Dans tous les sens, David Doucan.
Lui, c'est sûr. Laurent Cabrol, il est auto-reverse. Ça, c'est sûr.
Il retombe toujours sur ses pieds, en fait. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est comme le ciel, c'est infini. Oh
ah oui. Bravo. Ah, c'est une boucle que ne fermera jamais. Vous voulez que je vous parle de quoi déjà ?
Ce que vous voulez.
Fait, bon.
Moi, j'ai retenu une chose. 19 degrés à Dunkerque, 37 à Nîmes.
Ouais. Bravo.
Je vous suis.
C'est exactement ça. En passant par 29 à Paris, 30 à Besançon, 31 à Bourges et 32 à Marseille et Lyon. Voilà. Mais c'est une journée d'été classique avec un ciel fort dégagé, un temps très agréable, quelques nuages ici ou là sur la Vendée, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine. Les côtes seront vraiment un temps génial pour aller se baigner parce que la température de l'eau, certes, est un peu froide encore. J'ai regardé, il a fait 18-20 sur les côtes atlantiques et sur les côtes de la Manche. Même sur les côtes de la Manche, c'est 17-19. Allez, 17-19.
Ça chauchote, faut y aller là. C'est bien, c'est bon pour la santé.
Non, on va pas être chauchote, on va pas se laisser avoir. Donc, il fera très beau. Demain, vendredi, ce sera du soleil aussi, avec des températures en hausse, puisque samedi, dimanche seront des journées très chaudes. Nous avons un pic de chaleur. Je ne dis pas canicule, ça fait peur et ça ne sert à rien. Ça va durer deux jours et après ça va baisser. Donc on parle pic de chaleur et puis voilà, surchauffe si vous voulez. Et puis ensuite ça va redescendre à partir de lundi, surtout de mardi et mercredi, avec un temps agité. Et puis c'est un temps qui ne sera pas forcément très sympathique dans les jours qui viennent la semaine prochaine. On pourra avoir pas mal d'averses, pourra avoir pas mal de nuages. Bref, ce sera pas le grand bleu comme celui d'aujourd'hui. Je vous l'offre, ce grand bleu.
On le prend et on le partage avec nos auditrices et auditeurs. Merci, Laurent Cabrol.
Et merci à vous de nous avoir choisis en ce jeudi 4 juillet. Bienvenue, il est 8h. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal avec David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Le bonheur est dans le pré. En tout cas, pas à Paris. C'est la conclusion d'une enquête qu'Europe 1 vous révèle ce matin. 67% des salariés d'Île-de-France expriment le souhait de trouver un travail en province. Explication dès le début de ce journal. Les résultats du bac tomberont demain. Engagement du ministre de l'Éducation nationale. Les élèves dont les notes ont été retenues par des professeurs grévistes se verront attribuer leur moyenne de l'année. Et puis, la très belle affiche de la Coupe du Monde féminine de football. Les Américaines, tenantes du titre, affronteront les Néerlandaises, championnes d'Europe. Coup d'envoi dimanche à 17h.
Et à 8h12, l'actualité internationale. Un carnage. Au moins 44 migrants ont été tués dans un bombardement aérien sur leur centre de détention en Libye. Pas de condamnation unanime du Conseil de sécurité de l'ONU. L'analyse à 8h12 donc avec Vincent Herouet. Et à 8h15, David, vous recevez Marc Fesneau, le ministre modem des relations avec le Parlement.
Europe 1.
Les bouchons, le prix du mètre carré, la pollution, parfois pas de place en crèche, la mauvaise humeur généralisée, oui, c'est ce que certains appellent l'enfer de la vie parisienne. Eh bien, vous êtes de plus en plus nombreux à dire stop. Selon une étude que nous vous révélons ce matin, réalisée par le site regionjob.com, 67% des salariés d'Île-de-France disent vouloir partir vivre et travailler en province. C'est 8 points de plus que l'an dernier. Olivier Samin.
Ils travaillent depuis plus de 4 ans à Paris et gagnent plutôt bien leur vie, mais c'est décidé. Avec Mehdi, son compagnon, Anaïs va quitter la capitale. Ça fait plusieurs mois que l'un et l'autre recherchent activement un poste en province, avec une préférence pour les Hauts-de-France ou la région lyonnaise. Lui est juriste, elle travaille dans la com, mais s'il le faut...
Je suis prête à changer de métier, clairement, pour quitter Paris. Aujourd'hui, le confort de vie est vraiment important pour moi et Paris ne répond pas à mes besoins.
Et si à Paris, on vous propose une évolution professionnelle que vous ne trouverez jamais en province, vous, non, ça vous en fichez.
L'argent, ça n'achète pas tout. Avec moins d'argent en province, on peut faire plus et l'argent ne fait pas le bonheur. Pour le coup, c'est Paris qui me l'a appris.
Nicolas, lui, est ingénieur et il travaille à Nantes. Le choix de Mehdi et d'Anaïs, il le comprend parfaitement.
Ils ont bien raison. Et je constate que dans mon groupe d'amis, avec beaucoup de gens qui sont partis habiter à Paris, on est en train de récupérer tous nos amis à Nantes aujourd'hui et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. La vie a fait que s'installer à Nantes, pour chacun avec des raisons diverses, devenait une bonne solution et permettait de vivre peut-être moins à 100 à l'heure en permanence.
Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, c'est le top 3 des régions qui attirent le plus les candidats à la mobilité. Dans le bas du classement, on trouve la Bourgogne-Franche-Comté et juste au-dessus, l'Île-de-France.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1.
Il n'est manifestement pas du genre à perdre au bras de fer.
Oui, le ministre de l'Éducation nationale assure que les résultats du bac seront publiés comme prévu demain. Pas question de reporter parce qu'une minorité de professeurs grévistes refuse de transmettre les notes des copies qu'ils ont corrigées. Avec nous, Virginie Salmen, la spécialiste éducation d'Europe 1. Jean-Michel Blanquer a en fait trouvé une parade en deux volets, Virginie.
Alors, il y aura probablement des copies manquantes. Demain, Jean-Michel Blanquer ne l'exclut pas. Il y en a encore moins de 100 000 sur 4 millions, selon le ministre. Mais d'abord, beaucoup de correcteurs devraient finalement les rendre aujourd'hui en les apportant au jury. Et puis, le ministre de l'Éducation nationale a imaginé une solution. Si on prend le cas d'un candidat à qui il manque sa note de philosophie, eh bien, c'est sa note de l'année, sa moyenne de contrôle continu qui sera prise en compte à titre provisoire. Et quand la note de l'épreuve du bac arrivera, si elle est meilleure, c'est celle-là qui comptera. C'est la même procédure que lors de la perte d'un paquet de copies. Le petit risque dont parlait encore hier matin le ministre semble avoir été éliminé. Et si des correcteurs continuaient de retenir les copies qui sont la propriété de l'État, eh bien ils risqueraient des sanctions financières jusqu'à 15 jours de retenue sur salaire, soit au moins 1 000 euros, une suspension de 15 jours à plusieurs mois et des poursuites pénales pour vol et recel.
La spécialiste éducation d'Europe 1, Virginie Salmen. Merci Virginie. Et comme vous venez de l'expliquer, la parade du ministre apparaît comme un avant-goût de la réforme qui donnera davantage de poids au contrôle continu dans l'obtention du baccalauréat. Alors, que pensent de tout cela les premiers concernés? Jean-Jacques Herry est allé interroger des lycéens qui attendent leurs résultats.
Si on fait appliquer la meilleure des deux notes pour cette matière, pour certains élèves, autant le faire pour tout le monde ou faire pour personne, mais là c'est pas cohérent.
Il y a certaines écoles qui dépendent de mention au bac et donc
ça semble bizarre, on peut ne pas avoir la mention à premier abord et finalement la note peut nous sauver. C'est un peu embêtant pour nous, mais au moins on aura tous nos résultats, c'est ce qui compte je pense. Le contrôle continu, ça dépend du lycée, alors que le but du bac c'est qu'on soit tous... traité de la même manière quoi.
Au final on revient sur la polémique de est-ce qu'il faut il faut enlever le bac ou pas. C'est comme si le bac il servait à rien parce qu'il n'y a plus l'égalité et donc l'esprit du bac c'est plus la même chose.
Les réactions de ces lycéens recueillies par Jean-Jacques Herry pour Europe 1.
La criminalité évolue. La police judiciaire a rendu publique hier toute une série de statistiques très inquiétantes, David.
Oui, en particulier celles concernant le proxénétisme dans les cités. 3 fois plus d'affaires traitées qu'en 2016, avec des victimes toujours plus jeunes et toujours plus nombreuses. Les explications de Guillaume Bier.
Les proxénètes des cités ont élargi leur horizon. D'après la police judiciaire, ils ne se contentent plus de mettre sous leur coupe des filles fragiles du quartier. Ils vont désormais recruter bien au-delà, explique Jean-Marc Droguet, le chef de l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains.
C'est souvent des échanges lors des soirées festives, c'est des recrutements via les réseaux sociaux. C'est une attention portée à ces victimes qui sont souvent vulnérables économiquement, psychologiquement, dans des situations professionnelles précaires, en rupture éducative, en rupture familiale. Et souvent une promesse de gagner rapidement de l'argent sans vraiment faire état de la nature de l'activité. Et au fil du temps, ces jeunes filles, malheureusement, tombent dans le milieu de la prostitution. institution. C'est le phénomène d'un proxénétisme franco-français qui aujourd'hui dépasse largement les filières étrangères d'exploitation sexuelle.
Avec à la clé des profits colossaux pour ces petits caïds devenus proxénètes, chaque fille exploitée peut rapporter 8 à 10 000 euros par mois. La moitié d'entre elles sont mineures, 270 ont été identifiées rien que l'an dernier, dont certaines ne se rendent pas compte qu'elles sont victimes, souligne un enquêteur, aveuglées par l'argent facile et la dépendance à leur proxénète.
Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Nous vous en parlions hier dans la matinale d'Europe 1, le fléau des féminicides. Nous apprenons ce matin un drame de plus. Un homme de 22 ans a été placé en garde à vue en Seine-Saint-Denis. Il est soupçonné d'avoir tué sa compagne. Elle était enceinte de 3 mois et elle avait déposé la veille une main courante après des violences conjugales. Je vous rappelle que depuis le début de l'année 2019, 70 femmes, donc 71, ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint.
Europe 1.
À suivre dans le journal, nous allons à Washington. Nous sommes le 4 juillet, c'est la fête nationale américaine. Et Donald Trump crée la polémique avec des célébrations, grand spectacle. À tout de suite.
Votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec David Doucan. Nous sommes le 4 juillet. C'est la fête nationale aux États-Unis.
Oui, et cette année flotte un parfum de scandale. Donald Trump prévoit des célébrations en forme de grand spectacle. Il avait été, on le sait, très impressionné par le défilé du 14 juillet en France lorsqu'il était l'invité du président Macron. Avec nous, Sonia Dridi, l'une de nos correspondants à Washington. Le problème, Sonia, c'est qu'aux États-Unis, la démonstration de force militaire, eh bien, ce n'est pas dans les habitudes.
Oui, inspiré par le 14 juillet en France, Donald Trump transforme la fête nationale américaine en grand show. Il n'a pas obtenu le défilé militaire dont il rêvait, mais en lot de consolation, il a droit à 2 chars d'assaut et 2 véhicules blindés exhibés pendant les festivités, un survol par l'avion présidentiel Air Force One et par des avions de chasse. Aux États-Unis, cette journée est d'habitude très patriotique, mais dénuée de dimensions militaires et politiques. Pour beaucoup d'Américains, la présence de blindés est choquante et Trump bouleverse un peu plus les célébrations avec un discours intitulé « Hommage à l'Amérique » qu'il prononcera dans la soirée sur les marches du Lincoln Memorial. Des tickets VIP ont été distribués à de grands donateurs républicains. Les démocrates accusent le président de vouloir s'accaparer la fête de l'indépendance et de la transformer en un meeting de campagne. Mais il assure que son message passera auprès de la plupart des Américains. Ses opposants ont prévu de déployer dans le ciel de Washington le Baby Trump, ce bébé géant gonflable à l'effigie du locataire de la Maison Blanche.
Sonia Dridi, à Washington. Merci à vous, Sonia.
Allez, un mot pour la Coupe féminine de football avant la finale.
Oui, la Coupe du Monde. Les Néerlandaises ont battu les Suédoises hier en demi-finale, 1-0 après prolongation. La finale, ce sera donc États-Unis-Pays-Bas dimanche 17h à Lyon. Les Pays-Bas qui ne partent pas favoris. Simon Rubin.
Les Néerlandaises championnes d'Europe en titre auront donc la lourde tâche, quasi impossible, de renverser les États-Unis en finale. Une affiche inédite, les Pays-Bas n'ont jamais atteint ce niveau de la Coupe du Monde. Pour les États-Unis, en revanche, c'est une habitude, 5e finale de l'histoire, et dans le discours de la défenseuse américaine Ali Krieger, pas l'ombre d'un doute, pas une once de crainte.
On est de retour en finale, on sent qu'on le mérite vraiment, on a affronté les meilleures équipes et c'est ce qui compte parce que c'est ce qui fait de vous des championnes. Battre les plus grandes nations pour devenir les meilleures.
Face aux États-Unis, les Pays-Bas, c'est la nation qui monte, symbole d'une Europe qui se passionne de plus en plus pour le foot féminin, mais qui semble encore bien fragile comparée au football ultra-professionnalisé des Américaines.
Simon Rubin, du service des sports d'Europe 1.
C'était le journal de 8h présenté par David Doucan. À demain.
À tout de suite.
À tout de suite, bah, chaque fois, j'ai
l'interview politique.
Qui est votre invité à 8h15
Marc Fesneau, ministre MoDem des Relations avec le Parlement.
À tout de suite. Vous pouvez continuer à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 8h11, coup d'œil à l'actualité internationale comme chaque matin avec Vincent Hervouet, Nikos.
Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour Nikos, bonjour Céline.
Bonjour.
Un carnage dans une prison pour migrants en Libye, c'est un bombardement qui a tué une quarantaine d'Africains, en a blessé 100 autres et il faut bien le dire, l'indignation est générale.
Alors ces Africains sont doublement piégés, ils voulaient immigrer, ils sont faits prisonniers en Libye, et leur prison elle-même est prise pour cible dans la bataille de Tripoli. Ils sont les victimes désarmées et promises au couteau du boucher. Selon l'ONU, 5000 Africains sont détenus dans des centres officiels et les trois quarts sont trop près de la ligne de front. Leur sort fait pitié. Leurs conditions de vie font horreur. Ils sont victimes d'épidémies, de viols, ils crèvent de faim, de soif, ils sont battus. C'est l'avant-dernier cercle de l'enfer. Car il y a pire encore ! Le dernier cercle, ce sont les prisons privées, celles que tiennent les milices et les trafiquants. Comme ils ne peuvent plus se débarrasser de leur cargaison humaine en l'expédiant à Lampedusa, eh bien ils la réduisent en esclavage. Des Africains sont loués sur les chantiers, d'autres sont torturés. Et la vidéo est envoyée aux familles qu'on rackette. Le supplice peut durer des années. Le carnage d'hier a eu lieu dans les hangars d'un camp militaire à Tadjoura, dans les faubourgs de la capitale. Et il braque l'attention sur la bataille de Tripoli. L'ONU verse des larmes de crocodile. Elle a mis en place le gouvernement provisoire qui laisse faire ses milices de voyous. Mais son envoyé spécial s'indigne, le conseil de sécurité s'agite et le secrétaire général réclame une enquête.
Et la Turquie parle de crimes contre l'humanité.
Alors évidemment, parce qu'elle est impliquée jusqu'au cou dans la bataille en cours, elle fournit des drones, des armes, des conseils au mépris de l'embargo. Elle soutient les frères musulmans de Misrata et les milices islamistes. Recep Tayyip Erdogan vient de subir une défaite électorale à Istanbul, eh bien il se rattrape à Tripoli. Il accuse le maréchal Haftar, qui assiège la capitale, pour diaboliser ceux qui le soutiennent, les Émirats, l'Égypte et plus discrètement les Occidentaux. La troisième guerre de Libye est en train de s'internationaliser. Et enfin, dans le cœur des pleureuses, il y a les ONG européennes qui dénoncent un crime de guerre. Celles-là veulent faire honte à l'Europe qui a fermé ses portes et fait tout pour dissuader les traversées de la Méditerranée. Et c'est vrai que les victimes d'hier sont des Érythréens et des Soudanais qui avaient sans doute droit au statut de réfugiés. Mais comment s'émouvoir du sort des Africains en Libye et dénoncer en même temps le maréchal Haftar qui refuse le statu quo? On ne peut pas réclamer un pont humanitaire vers l'Europe et laisser les preneurs d'otages prospérer à Tripoli. La Libye est pavée de bonnes intentions, la France le sait parfaitement, c'est elle qui a ouvert les portes de l'enfer en voulant se débarrasser de ce vieux diable de Kadhafi. Et là, ça, c'est un véritable crime.
Vincent Hervouette pour l'édito international.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans quelques instants, Marc Fesneau, ministre auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement, sera l'invité de David Doucan pour l'interview politique.
Une très belle matinée sur Europe 1. Il est 8h14. Il est 8h16. Nikos Aliagas.
Le ministre chargé des relations avec le Parlement, Marc Fesneau, est votre invité, David Doucan. Bonjour, monsieur.
Bonjour, Marc Fesneau.
Bonjour.
Ministre Modem, je le précise parce que se passe-t-il, Marc Fesneau, entre les deux partis de la majorité, La République En Marche, le Modem? Vous gouvernez le pays ensemble, mais alors, quand il s'agit des municipales de l'an prochain, c'est chacun pour soi. La République En Marche investit en ce moment ses candidats sans tenir le moindre compte de votre avis.
Oh, y a un dialogue entre le mouvement démocrate et La République En Marche. On est dans les phases qui sont toujours difficiles quand on est sur des affaires municipales. Il y a 36 000 communes, 1000 communes de plus de 10 000 habitants, ça fait quand même autant de sujets et de terrains sur lesquels on peut avoir des accords ou aussi des désaccords. On est dans une phase de discussion entre les responsables des deux formations politiques. Il y a manifestement un certain nombre d'endroits où nous ne sommes pas aujourd'hui, nous n'avons pas encore atterri sur un accord.
Oui.
Moi, ce que je pense sur ces affaires de municipales, un, c'est qu'il faut être conforme à l'esprit de 2017, et qu'on a vu aussi d'ailleurs quand on a fait la liste Renaissance aux européennes, c'est un esprit de rassemblement et de dépassement.
C'est pas du tout ce qui se passe, Marc Fesneau. Mais... Je prends l'exemple de Bordeaux. Investiture de Thomas Cazenave, proche de Emmanuel Macron, alors que le Modem gouverne aujourd'hui la ville avec Nicolas Florian, qui a succédé à Alain Juppé. Et le Modem pensait, et l'a dit, qu'il fallait mieux soutenir Nicolas Florian. Donc vous n'avez pas été entendu du tout sur ce cas. Il y a d'autres cas, Clermont-Ferrand, Dijon.
Mais on n'a pas encore abouti. Mais en tout cas, nous ferons valoir, et je pense qu'à La République En Marche, on y est très attentif aussi, la nécessité de montrer, d'envoyer des signes, non pas faire de la politique comme on a pu en faire trop souvent, mais de la politique en disant, après tout, est-ce que tel maire a un bon bilan?
Oui.
Est-ce que tel maire, sans lui demander de s'en régimenter, est capable de se rapprocher de ce que nous voulons faire à la fois au niveau national et au niveau local? C'est vrai que l'exemple bordelais ne nous paraissait pas un bon exemple et un bon signal qui est envoyé.
Vous n'avez pas du tout été entendu.
Oui, non, mais on peut ne pas être entendu dans une discussion et dans une négociation.
Est-ce que vous avez déjà été entendu sur un cas? J'ai le sentiment qu'il ne vous écoute pas du tout.
À ma connaissance, il doit y avoir 30 investitures qui ont été déployées sur 1000... de plus de 10 000 habitants.
Donc vous gardez espoir de pouvoir
parce que
travailler ensemble.
Je pense qu'on a besoin, sur ces affaires municipales, d'envoyer les signaux d'un rassemblement et d'être ouvert à ceux qui, à droite, à gauche et au centre, ont envie de travailler avec nous localement. Et donc, tout signal un peu négatif ne va pas forcément dans la bonne direction. Mais je suis sûr qu'on sera entendu. Il faut donner le temps. Il ne faut pas non plus, d'ailleurs, je le dis au passage, forcément se précipiter. Parfois, il faut laisser les situations locales se décanter. J'ai été secrétaire général du MoDem, je sais comment les choses se passent. Parfois, on a des choses qu'on pense être justes au mois de juillet, puis au mois de septembre-octobre, on se rend compte que les équilibres se font de nature différente.
Là encore.
Et donc, c'est un appel au dialogue, mais je crois que le dialogue se fera.
Là encore, ce n'est pas l'état d'esprit de La République En Marche qui semble vouloir aller vite, par exemple, à Paris. Alors, j'ai une question à vous poser. On a le sentiment d'un manque de respect. On apprend dans Le Parisien ce matin qu'un séminaire s'est tenu à La République En Marche samedi pour former les candidats novices du parti majoritaire pour les élections municipales avec un jeu de rôle organisé. Et dans ce jeu de rôle, il y avait des personnages types affublés de surnoms. Alors par exemple, l'éventuel candidat MoDem, c'était Marielle Orange, l'actuelle présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, Marielle de Sarnez, appréciera. Et puis le candidat LR qui est possiblement pourrait rejoindre la majorité, c'était Jean Brutus. Comment pouvez-vous vous faire confiance avec un tel séminaire?
Mais moi j'en ai parlé avec Stanislas Guérini, je pense que ça relève d'une maladresse, mais il faut faire toujours attention aux symboles et aux gestes, et parfois dans la vie politique c'est les petites choses, et des choses qui relèvent de la symbolique, parce qu'au fond tout ça n'a aucune importance, et celui...
Oui mais le respect c'est important.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Celui qui a commis ce genre de jeu de rôle aussi simpliste, y compris dans la terminologie qui est employée, aurait mieux fait de réfléchir avant de le faire, mais je crois que nous partageons avec Stanislas Guérini l'idée que tout geste, tout sentiment qu'il y aurait une forme de dénigrement, y compris au travers d'un jeu de rôle, est un mauvais geste. Ouais. Je pense que les uns et les autres, on est conscients de ça. Moi, je serai toujours de ceux qui, et je l'ai fait longtemps comme responsable de formation politique, et je reste en responsabilité aussi de ça, même si je suis par ailleurs ministre, faire en sorte que les attitudes, parce que dans la politique, les attitudes, ça compte, et ce soient des attitudes qui soient ouvertes et des attitudes respectueuses. Et donc, chez nous et chez les autres, on est en droit d'espérer et d'estimer qu'il faut avoir des attitudes respectueuses.
Je vous lance un défi, Marc Fesneau, vous me faites une réponse en un mot. Une réponse en un mot. À Paris, le MoDem, qui ne présentera pas de candidat, soutiendra Benjamin Griveaux ou Cédric Villani? Qui a votre préférence?
Je suis désolé de ne pas pouvoir vous répondre en un mot. Parce que
non, ils seront désignés. La désignation aura lieu la semaine prochaine. Qui a votre préférence?
Non, mais d'abord, c'est des désignations internes à La République En Marche. Je ne formulerai aucune préférence. C'est au MoDem de Paris de se déterminer. Défi non relevé, parce que là, vous êtes, vous connaissant, c'est un peu étonnant, vous êtes un peu trop simpliste à me demander un oui ou un non ou un non.
Si, vous pouvez avoir une préférence politique, vous êtes en responsabilité.
Non, mais
qui est le meilleur candidat?
Notre préférence, elle est simple, c'est de trouver avec La République En Marche les voies et moyens pour faire en sorte que Mme Hidalgo ne soit plus maire de Paris en 2020.
Bon, venons-en à un sujet de fond qui occupe aujourd'hui les débats à l'Assemblée nationale, la loi contre la haine sur Internet, qui est en ce moment discutée. Est-ce que vous pensez, Marc Fesneau, qu'on combat le racisme en lui interdisant de s'exprimer?
Non mais, rappelons les faits. Le seul espace dans lequel vous pouvez tenir des propos racistes, menacer quelqu'un de mort, tenir des propos homophobes, tenir des propos sexistes, tenir des propos violents à l'endroit de telle ou telle personnalité, c'est l'espace d'Internet. Si dans la rue, vous avez des attitudes racistes ou homophobes ou autres, vous êtes condamné. Et si vous le faites sur une plateforme de différentes natures, sous le couvert de l'anonymat, vous pouvez dire absolument n'importe quoi, enfreindre la loi sans qu'aucun moyen ne soit mis en œuvre pour l'empêcher. Le racisme, il se combat pas... par ce texte de loi. On fait rentrer la loi dans l'espace numérique qui y avait échappé jusqu'alors. Et moi, je pense que de ce point de vue-là, c'est une bonne loi. D'ailleurs, les débats se passent, je trouve, dans de bonnes conditions, puisque comme ministre de Relations avec le Parlement...
Vous y siégez?
Je veille toujours, en tout cas, au premier sens du terme, d'ailleurs, à regarder la façon dont se passent les débats. Je crois que tout le monde reconnaît que cet espace Internet ne peut pas être l'espace de l'impunité. Parce que c'est le dernier refuge de ceux qui peuvent dire n'importe quoi et enfreindre la loi sans être inquiétés. C'est le rôle des plateformes, c'est leur rôle à eux de ne pas dire « Ah, ça n'est pas moi, c'est la liberté d'expression ». On ne peut pas dire n'importe quoi sur Internet comme on ne peut pas dire n'importe quoi dans la rue. Après, la question de comment on fait évoluer une société pour qu'elle soit, pour ceux qui le sont, moins homophobe, qu'elle soit moins raciste, ça c'est un travail de pédagogie.
Mais est-ce que vous le menez? Parce que c'est ça la vraie question.
Non, c'est pas ça. C'est une autre question. Mais
n'est-elle pas plus importante?
Ne nous cachons pas derrière, c'est pas facile de lutter contre le racisme ou le sentiment de xénophobie pour dire « Je ne fais pas condamner ou retirer sur Internet des contenus ou des propos qui seraient de cette nature-là. » Parce que sinon, on ferait un défaut. S'il y a une loi pour interdire les propos injurieux, les propos racistes, les propos antisémites, c'est bien parce que c'est un des moyens, pas le seul, mais c'est un des moyens pour faire en sorte que ces propos-là ne se répandent pas.
Le fait qu'ils ne puissent plus s'exprimer, les fait-il disparaître?
Mais ce n'est pas...
Les gens continueront à penser ce qu'ils pensent.
Oui, mais c'est un deuxième sujet. L'un n'exclut pas l'autre. On peut à la fois
être sur
la loi, mais on s'en saisit tous les jours, on essaie tous les jours d'avoir une parole qui permette à chacun de réfléchir en conscience et de ne pas aller dans les caricatures qui mènent souvent au racisme.
Alors, venons-en à un autre sujet d'actualité. Il y a des grévistes, correcteurs, l'Éducation nationale, qui retiennent des notes. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a assuré que les résultats seraient donnés demain. Il a trouvé une parade. Ceux des élèves dont les notes n'auraient pas été transmises se verraient attribuer leur moyenne de l'année.
Au contrôle continu, oui.
Au contrôle continu, temporairement, jusqu'à ce que la note obtenue lors de l'examen soit donnée. Et si cette note-là était supérieure au contrôle continu, elle serait donc du coup retenue. Est-ce que c'est une rupture d'équité ? Est-ce que, comme le disent certains responsables syndicaux de l'Éducation nationale, c'est une rupture d'équité dans le baccalauréat 2019 ?
Moi d'abord, et je connais bien cette profession et je connais leur esprit de responsabilité, il n'est pas normal. On peut avoir des différends avec un gouvernement, on peut avoir des revendications. Je rappelle que ce gouvernement a quand même stabilisé les crédits en termes d'Éducation nationale, qu'on en a fait une priorité, qu'on a fait le dédoublement des classes en primaire, donc on a quand même avancé, on a quand même plutôt donné des signaux pour améliorer les choses.
Il y a tout de même 2000 postes en moins l'année prochaine, il ne faut pas le négliger, dont des professeurs.
Non mais le volume de financement, c'est aussi la réduction du nombre d'élèves, c'est un fait démographique. Il y a moins d'enfants aujourd'hui qu'il y en avait peut-être il y a 5 ou 10 ans, donc c'est un fait démographique.
Sur l'équité alors.
Alors, je pense que, moi je fais confiance aux professeurs pour faire la tâche qui leur incombe, c'est-à-dire de noter, ça ils l'ont fait, et d'envoyer les notes, c'est ça qui est en jeu. La deuxième question, c'est pas une rupture d'équité, puisqu'on est sur un dispositif provisoire, le temps que les notes arrivent, c'est pas un dispositif définitif, mais c'est au moins pour ne pas laisser des jeunes, parce que moi je pense à eux aussi, et à leur famille, qu'on laisserait pour quelques pourcents ou quelques dizaines de milliers, sans notes, et dans l'attente de notes, parce que des professeurs, par des modes d'action... qui sont pas des modes d'action, alors ils sont pas classiques, mais je pense qu'ils sont... C'est dangereux de rentrer dans cette logique qui, en fait, vise à pénaliser une classe d'âge ou des jeunes, alors qu'ils attendent les résultats des bacs, mais c'est pas une rupture d'équité. Les responsables syndicaux, ils ont raison d'être vigilants sur l'équité, mais l'équité, c'est que tous les professeurs, d'abord... envoie les notes et corrige les copies.
Abordons un dernier sujet. Cette semaine, la loi visant à interdire les violences éducatives ordinaires, on dit la loi qui interdit la fessée,
oui, a été définitivement... Ce qui est un peu caricatural.
Voilà, mais pour que nos auditeurs comprennent de quoi on parle. La loi a été définitivement adoptée cette semaine. C'est une proposition de loi Modem, l'origine, cette proposition de loi. C'est intéressant parce qu'on se souvient de François Bayrou en 2007. Il est devenu... connu de nos concitoyens et respecté par nos concitoyens avec cette gifle. Vous vous en souvenez pendant la campagne présidentielle.
Je me souviens très bien.
Il lui avait dit « Tu me fais pas les poches », un petit garçon qui essayait de lui prendre son portefeuille. Il lui met une gifle. « Tu me fais pas les poches ». Toutes les gifles sont à bannir, Marc Fesneau.
Mais c'était de l'ordre du réflexe. C'était il y a 17 ans, si vous en parliez, la société a évolué. C'était 2002.
2002, pardon, bien sûr,
oui,
2002.
J'ai un très bon souvenir.
Je pensais 2002, bien entendu.
Non, c'était
raison, évidemment.
C'était il y a 17 ans quand même.
2002. Ouais.
Le temps passe.
Bien entendu.
Et quand vous en parlez avec François Bayrou, il n'en faisait pas un motif de gloire. Il avait dit qu'il avait, été comme dans un réflexe d'un enfant qui effectivement lui usait les poches. Mais je pense que ce texte, il permet aussi. Moi, je reconnais volontiers, j'étais président de groupe quand le texte a été déposé, que j'étais assez dubitatif. Quand Maud Petit, qui m'a proposé cette PPL, je me demandais si on n'allait pas rentrer dans les caricatures qu'on a pu voir. Et au fond, il pose un débat qui est assez juste, c'est pour ça que je suis heureux que ce texte aboutisse, et y compris dans l'unanimité de l'Assemblée et du Sénat. Mmh. Il pose le rapport à la violence et le rapport à la violence sous les différentes formes dans lesquelles elle peut s'exprimer quand dans le processus éducatif. Et je pense que c'est une loi qui, d'abord, au-delà d'être un élément, comment dirais-je, coercitif, est une loi qui vise à la pédagogie. Et à chaque fois qu'on porte la main sur un enfant, de se poser la question de la justification et des dégâts que ça peut produire chez un enfant. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une avancée démocratique. On n'est pas très en avance, hein. On est le 56e pays à voter cette loi. Donc, il était temps peut-être qu'on porte ce regard différent. Et après, c'est toute une évolution de société qu'il faut essayer de porter. Et moi, je suis heureux qu'on l'ait porté.
Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement. Merci d'avoir été mon invité ce matin.
Merci à vous.
David Doucan pour l'interview politique de la matinale.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la météo avec Laurent Cabrol. Évidemment, l'essentiel de l'info. 8h30, la revue de presse de David Abiker. 8h35, le journal de la Coupe du Monde féminine de foot avec Jérôme Lacroix. Tout de suite.
Avec Nico Saliagas sur Europe 1, il est 8h28. À suivre l'essentiel de l'actualité, tout de suite, c'est Laurent Cabrol pour la météo, Nikos.
Mon cher Laurent Cabrol.
Et si nous parlions des plages, tiens.
Parlons des plages, la météo des plages.
Parce que la météo des plages, on va la proposer lundi, régulièrement dans la journée, à nos amis, pour qu'ils puissent aller se baigner tranquillement tout en. Et puis les autres vont rêver.
Voilà. Ou seront jaloux.
Ça. Donc, si vous voulez rêver aujourd'hui, en Méditerranée, mes amis, il se passe des choses sympas. La température de l'eau est entre 24 et 25, 27 sur la Côte d'Azur et la Corse, et la température en bord de mer est entre 28 et 31, s'il vous plaît.
Je vais mettre un peu de crème, là.
Ça suffit de rêver.
Ouais, indice UV, assez haut.
On va revenir à la réalité du continent. Mais sur le continent, c'est pas mal non plus, puisque nous allons vivre une journée vraiment très ensoleillée, pas trop chaude, raisonnablement chaude. Seules Toulouse et Nîmes sont des villes encore très très, très élevé, aux températures élevées, 35-37, mais partout ailleurs, ce sera entre 25 et 32. Mm-hmm. C'est tout à fait logique en cette époque de l'année. Nous sommes au mois de juillet, il fera 29 dans la capitale, il en fera 30 à Besançon, 32 à Lyon, Marseille et 33 à Bordeaux.
Merci mon cher Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Nous sommes le jeudi 4 juillet, toute l'actualité à 8h30 avec vous Nico Saliagas.
Un jeune homme de 22 ans en garde à vue, il est soupçonné d'avoir tué sa compagne de 20 ans, enceinte de 3 mois hier. Ça s'est passé à Saint-Denis, en banlieue parisienne. Elle avait déposé une main courante la veille pour violence conjugale. C'est le 71e féminicide depuis le début de l'année et le magistrat Luc Frémiot vient de lancer la pétition non-assistance à femme en danger. Il interpelle la ministre de la Justice, on l'écoute.
Est-ce qu'aujourd'hui il y aura une 72e victime? Est-ce que demain il y aura une 73e victime? Est-ce qu'on apprendra une fois encore qu'il y a eu une main courante qui a été déposée, qui n'a pas eu de suite? C'est intolérable, c'est insupportable. Aujourd'hui, il faut sanctionner les dysfonctionnements s'il y en a, il faut les traquer et vérifier que chacun fait son métier. Et c'est la raison pour laquelle il faut nécessairement diligenter des inspections au plus haut niveau pour mettre en cause ces dysfonctionnements et en tirer des conséquences. C'est ça le sujet, le cœur du sujet, c'est ça. Les effets d'annonce, il y en a assez. Hier, Madame Belloubet qui nous annonçait, comme par hasard, après ma pétition, on apprend qu'elle a diligenté une enquête au mois de juin. Les effets d'annonce, ça suffit.
Propos recueillis par Claudia Bertram. Tous les candidats au bac connaîtront le résultat demain, promesse de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. Certains correcteurs retiennent encore 100 000 copies au total. Si les notes ne sont pas communiquées à temps, ce sont provisoirement les notes de contrôle continu qui seront prises en charge. Et puis en Italie, le volcan Stromboli, situé sur une île éolienne, est entré en éruption. Un randonneur a été tué, il y a plusieurs blessés et 70 personnes ont été évacuées. Facebook annonce ce matin un retour à la normale après une énorme panne qui a également affecté Messenger, Instagram, WhatsApp. 2,7 milliards d'utilisateurs ont été concernés par cette panne mondiale.
Europe 1. Il est 8h33, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker, Nikos.
Bonjour David Abiker.
Bonjour Nikos, bonjour Céline et bonjour à tous.
Ce matin dans les journaux, la confiance règne.
La confiance règne. Une formule à double sens, hein, selon le ton, la façon de l'entendre. Elle dit tout et son contraire. Peut-on avoir confiance? Peut-on avoir confiance dans le Mercosur, par exemple? Pas sûr, d'après le Figaro. Tir de barrage contre l'accord commercial. Peut-on faire confiance aux correcteurs pour rendre les notes du bac? Pas sûr. Pression sur le bac, titre La Voix du Nord. Peut-on faire confiance aux contribuables? Carrément pas sûr, selon Bercy, qui crée, c'est la une des échos, une police fiscale et muscle son arsenal antifraude. Ce qui nous amène à ces révélations hier du Canard enchaîné sur le magot suisse de Raymond Barre. Raymond Barre, est-ce que vous vous souvenez de son slogan de campagne présidentielle en 88?
Allez-y.
C'était Barre confiance. Et si on ne peut plus faire confiance à Raymond Barre, même de sa belle mort, alors on fera confiance au philosophe Charles Pépin qui nous livre les clés de la confiance en soi en une de l'Obs. C'est vrai que dans une société qui n'a plus confiance en rien, la seule solution c'est peut-être de ne faire confiance qu'à soi.
Pour autant, faut-il faire confiance au commerce international?
Et une formule résume ses doutes, et on la lira dans le Figaro sous la plume de Gaëtan de Capelle. Il n'est pas certain que l'accord de libre-échange Mercosur voit le jour de sitôt. Comment par exemple justifier l'importation de viande dont nous ne manquons pas depuis l'autre bout du monde, lorsque l'on interdit aux Français d'utiliser leur voiture au nom de la lutte contre le réchauffement climatique? Pourquoi, lorsqu'on prétend promouvoir une agriculture durable, faire du commerce avec ceux qui n'en respectent aucune règle? Défiance envers le Mercosur et bien sûr défiance envers la Chine dans un autre domaine. Et il faut lire cette semaine dans Le Point l'interview de Zhen Zhengfei, fondateur et directeur général du géant chinois Huawei. Le nouveau monde, c'est lui, titre Le Point. Le nouveau monde, c'est lui. Pour désigner celui que Trump qualifie d'adversaire de l'Amérique. Huawei pèse 107 milliards de dollars, je le rappelle à nos auditeurs, et c'est le premier fournisseur d'équipements télécom au monde. Et si vous voulez comprendre l'appétit chinois, la voracité industrielle et commerciale chinoise, la confiance chinoise, lisez cette interview qui commence ainsi. Avez-vous un jour souffert de la faim? Demande Le Point. Ce à quoi le PDG de 73 ans répond: la question est de savoir si je me souviens un jour avoir mangé à ma faim dans mon enfance. À l'époque, c'était rare d'avoir de quoi se nourrir. Et dans l'interview, le PDG de Huawei ajoute « Je ne pense pas que les Américains puissent stopper Huawei. La roue de l'histoire tourne et personne ne peut la bloquer. C'est peut-être ça, la confiance en soi et la confiance de la Chine en sa puissance. »
La confiance qui fait la une de l'Obs.
Avec le philosophe Charles Pépin, dont l'essai sur la confiance sorti l'an dernier n'en finit pas de toucher le cœur des timides, de ceux qui n'osent pas, de ceux qui ne sont pas encouragés par une société qui mise tout sur la compétition. Et Charles Pépin explique que les clés de la confiance en soi sont dans la maîtrise que vous... dans la confiance que vous font les autres. Et il donne l'exemple du professeur qui, sans ses élèves, ne serait guère plus qu'un spécialiste. La confiance en soi, dit-il, réside dans le doute, dans la confiance dans la vie et aussi dans l'exécution, le bonheur de faire. Il faut réapprendre à faire pour réapprendre à se faire confiance. Et il évoque la notion de métier, de fabrication qui pourrait tout droit nous amener à la une du Maine Libre qui nous ouvre grand les portes de la nouvelle usine de fabrication des rillettes Bordeaux-Chenel, vous vous souvenez ? Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Ça donne confiance de montrer ce qu'on fabrique. Confiance en soi et confiance aux consommateurs. Et on lira aussi, à 3 jours du départ du Tour de France, le cahier spécial maillot jaune du Parisien aujourd'hui en France qui nous emmène directement, lui, à Romilly-sur-Seine, dans l'Aube.
Dans les ateliers précisément du Coq Sportif où l'on fabrique depuis 1951 déjà le célèbre maillot.
Le maillot jaune, mais aussi celui du 15 de France ou celui de la S Saint-Etienne. Et le directeur textile David Pécard explique fièrement on est au Coq Sportif, aux Parisiens aujourd'hui en France, que le maillot est quasiment intégralement assemblé dans l'usine de Romilly, que son coton est tricoté à 3, que le maillot pèse 100 grammes et qu'il en existe un plus léger encore de 90 grammes pour les épreuves de montagne. Et tous ces détails ne fabriquent pas seulement un maillot jaune, vous l'aurez compris. Ils fabriquent de la fierté, de l'estime de soi, du respect dans les couleurs, dans les coureurs et les consommateurs et la certitude de bien faire son travail. Tout cela mis bout à bout, si j'ai bien lu le philosophe Charles Pépin, fabrique plus qu'un maillot jaune, ça fabrique de la confiance en soi, la vraie, celle qui vous murmure à l'oreille que vous faites bien et que vous avez bien fait.
Le maillot jaune pour David Abiker, c'était la revue de presse.
La Coupe du Monde féminine.
L'événement foot est sur Europe 1.
Oui, 8h37, c'est l'heure du journal de la Coupe du Monde féminine de foot avec Jérôme Lacroix, Europe 1 et la radio officielle de la compétition, Nikos.
Avec Jérôme Lacroix, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin.
Aux anges, les oranges, les néerlandaises sont en finale après la victoire 1-0 face aux suédoises. Elles sont grimpées très haut, très vite. Ces hollandaises, elles ont ouvert leur palmarès il y a 2 ans seulement et leur ambition désormais, faire tomber les surpuissantes américaines. Finale dimanche 17h.
La Coupe du Monde féminine.
Europe 1, radio officielle.
Elles ont chanté, elles ont dansé dans les couloirs du stade de Lyon hier soir. Les joueuses néerlandaises, elles fêtent rien de moins qu'une qualification en finale de la Coupe du Monde, la toute première de leur histoire, à la faveur hier soir d'un succès 1-0 sur les Suédoises en demi-finale. Victoire 1-0 après prolongation, but à la 99e minute. Un succès acquis aussi, pas seulement, mais aussi grâce à eux. Leurs formidables supporters, c'est vraiment l'une des images de ce mondial. Tous deux orange vêtus, ils fondent par centaines dans les travées des stades, des villes hautes où se produisent leurs joueuses. Hier encore, donc à Lyon, Peter pourra dire « j'étais ».
C'est incroyable pour nous. Premier quart de finale, première demi-finale et première finale. Johan Cruyff nous a montré le chemin de là-haut et il nous a aidés.
Ils n'arrêtent jamais de chanter, jamais. L'incroyable ascension de ces néerlandaises. En 2015, dernier mondial, elles s'arrêtaient en 8e de finale. 2 ans plus tard, 2017, elles devenaient championnes d'Europe à domicile. Et les voilà aujourd'hui en finale du mondial.
En finale, certes, mais pas n'importe qui.
Les Américaines, les championnes en titre et leur foot ultra professionnalisé, elles semblent insubmersibles. On n'a pas peur, message martelé dès hier soir par les Néerlandaises. Leur force, on est une bande, disent les joueuses Yil Roord et Renate Jansen.
C'est dingue d'être en finale. Je pense que personne ne l'avait prédit. Mais on a beaucoup de qualités, on est une bonne équipe, on est fortes ensemble.
C'est un processus d'équipe. On joue depuis 3 ans ensemble. Ça va toujours de mieux en mieux. Je pense qu'on est une équipe.
États-Unis, Pays-Bas, les championnes du monde face aux championnes d'Europe. Affiche inédite de la finale de la Coupe du Monde dimanche 17h à Lyon. Il y aura aussi la petite finale pour la 3e place. Angleterre-Suède samedi 17h à Nice.
Et pour finir, des nouvelles d'Eti à ne pas confondre avec Iti, maison.
C'est ça. Mais qui est Eti? Vous vous souvenez peut-être, je vous avais raconté la mésaventure de la mascotte de cette Coupe du Monde, un petit poussin jaune, dérobé il y a quelques jours, enfin en costume a été dérobé, oui, vous l'aurez compris, dans une salle du Parc des Princes où sept hommes s'étaient introduits, eh ben, ces hommes ils se sont rendus à la police et ils ont avoué en garde à vue que ce soir-là, ben, ils étaient bien éméchés, ils sont ressortis libres et risquent une amende comme condamnation.
Non mais qu'est-ce que tu fais d'un costume de poussin?
En plus, il doit être très lourd parce que ça mesure plus de 2 mètres, le bazar.
C'est pour ça qu'ils l'ont ramené.
Faut être un peu concon, quoi.
Un peu bourré.
Comment tu rentres chez toi avec un costume de poussin? Comment tu le justifies à ta femme? Voilà. Merci beaucoup, Jérôme Lacroix.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, nous allons retrouver Nicolas Canteloup avec Julie pour le meilleur de la revue de presse. À tout de suite.
On reste sur Europe 1. Il est 8h41. Belle matinée. Il est 8h43.
Bougez pas, voici Nicolas Canteloup et Julie.
C'est presque du direct, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup en best-of cette semaine. Une cagnotte litchi a été ouverte pour, je cite, que Marlène Schiappa ferme sa gueule. Les organisateurs n'ont pas apprécié qu'elle demande la fermeture de la cagnotte en faveur du boxeur Christophe Détinger.
Oui, mais voilà, c'est là où on en est. C'est bien fait pour ta gueule, Marlène. Et vous avez vu, ma chère Julie, ma cagnotte a déjà atteint plus de 1000 euros. C'est pas rien, c'est pas rien.
Attendez, comment 1000 euros. Jean-Michel, c'est vous qui êtes à l'origine de cette cagnotte? Vous avez certes déclaré hier que fermer cette cagnotte était une erreur et que vous la souteniez, mais quand même. C'est...
Non, mais Julie, moi je n'en peux plus du comportement du gouvernement à l'égard des Gilets jaunes. Cette semaine, j'ai dénoncé l'exil fiscal de Carlos Ghosn aux Pays-Bas. Qu'est-ce que tu caches, Doudou, dis donc? J'ai dénoncé l'égoïsme des patrons, les violences policières. J'ai soutenu la cagnotte pour Christophe le boxeur. Et du coup, je vais vous dire une chose, j'ai même pris ma carte à la France insoumise. Je le dis, Macron démission, je dis bravo Libération, je dis Schiappa, ferme-la.
Oh bah dis donc, je ne reviens pas que vous ayez ouvert cette cagnotte, moi.
Par contre, Jean-Michel... Bonjour.
Bonjour Nicolas Barré, comment ça va?
Ben ça va Julie, je voulais juste demander, Jean-Michel,
oui.
T'as ouvert ta cagnotte, c'est bien, mais... Tu vas pas participer à ma cagnotte litchi pour mon cadeau d'anniversaire? En fait, je voudrais m'acheter un billet de train. Oui,
pour aller où?
Je voulais savoir, un billet de train pour aller à Francfort, pour visiter la bourse de Francfort.
Pour visiter la bourse de Francfort, hein.
C'est joli, Francfort, en janvier.
Mais oui, mais oui.
Non, mais, mon cher Nicolas, je t'aime beaucoup, mais on s'en fout de la bourse de Francfort, Nicolas. C'est un repère de capitaliste intolérable pour l'insoumis que je suis aujourd'hui. Et tu bosses toute ta vie pour payer ta pierre tombale, antisocial, tu perds ton sang-froid. Tu sais quoi, Nicolas? Viens, on va brûler la voiture d'un suppôt du capitalisme. La première qu'on trouve, là. Tiens, rincez-les là! Il y a marqué « Vive l'économie ! Prends sa saloperie !»
Mais ça va pas, Michel. Mais c'est ma nouvelle voiture. Je m'étais racheté une Fiat Punto d'occasion pour remplacer la Twingo que les Gilets jaunes m'avaient brûlée.
Ah bah oui, c'est vrai qu'on...
Oh non, ma Fiat Punto. C'est François Langlais qui me l'avait revendu un petit peu.
Allez, on en vient à Patrick Balkany maintenant. Le réquisitoire du procès aura lieu aujourd'hui. Bonjour Patrick Balkany.
Oui, bonjour.
Alors, le défi principal des juges aura été de se repérer dans un maillage impressionnant de sociétés écrans.
Oui, voyez, un maillage impressionnant de sociétés écrans. Vous avez vu ça? C'est... Ah ben c'est du travail d'orfèvre, n'est-ce pas? C'est... Ah ben écoutez, monsieur Aliagas, je vous montrerai comment on fait. C'est ma cinquième symphonie à moi, mon Guernica, mon tube, mon thriller, mon big bisou.
Et vous avez déclaré que pour ces sociétés écrans, vous aviez dû payer beaucoup d'impôts.
Ah ben oui, mais vous vous rendez compte de la situation. J'ai payé plus d'impôts que si j'avais payé mes impôts normaux. Quelque part, si j'ai fraudé, il faut le dire à vos auditeurs et à nos compatriotes, c'est uniquement par civisme. J'ai fraudé pour aider mon pays.
Oui. Pourtant, vous allez voir, le réquisitoire, il s'annonce sévère. Hein.
Non mais là, c'est parce que, on va se parler franchement, la justice est partiale dans notre pays. Les juges ont décidé de se faire Balkany, de faire un exemple, alors que je n'ai rien à me reprocher. Je vous regarde droit dans les yeux avec mes lunettes à double foyer. Et mon avocat, Maître Dupont-Moretti, pourrait vous le confirmer, il va vous le confirmer.
Ah ben d'accord, ok, on vous écoute, Maître. Allez-y.
Tout à fait. Mon client, Patrick Balkany, a été, je le dis haut et fort, le jouet de personnes mal intentionnées. Il a été, disons-le, naïf. Il a péché par candeur. Oui, j'ose l'affirmer, il a été crédule. Oh, bon, mais... Non mais attendez, dites carrément, maître, que je suis con, attendez. Non mais restez poli. Je vous signale qu'il fallait quand même en avoir dans le citron pour monter toutes ces sociétés écrans. Ça s'est joué à des détails près, c'était nu.
Maître, une réaction peut-être?
Putain, heureusement qu'il touche à sa fin ce procès, parce que je n'en peux plus de ce client. Merde.
On va prendre des nouvelles d'Arnaud Montebourg. Vous savez qu'il a lancé cet été sa marque de miel, hein, Bleu Blanc Ruche. Et pour l'instant, ça a l'air de bien se passer, hein, finalement.
Ah, salut la Julie.
Salut.
Salut Nikos, quel plaisir de Bonjour. Vous retrouver il y a si longtemps. En plus, je vous retrouvais
oui.
à l'heure du petit déjeuner,
oui.
quelque part l'heure du miel,
mm-hmm.
hein,
oui.
mon nouveau secteur. Le miel, le même que vous avez dans la voix, ma chère Julie, mon cher Nikos.
Ah, oui.
oui, je sais, vous flattez. C'est un succès, vous
Moi,
l'avez dit. Voyez-vous, au lieu d'être ministre du redressement productif, j'aurais dû être ministre du miel. Hein.
Oui.
Autant résoudre le chômage dans les hauts fourneaux, je ne sais pas faire, autant fourguer du miel. Ah, pardon, hein, on aurait enduit tous les ouvriers chômeurs de miel, je te les vendais aux repreneurs étrangers et on aurait gardé nos usines, cher Julie Leclerc.
Alors, vous avez même été fait chevalier du miel, ou plus exactement, chevalier premier grade des goûteurs de miel des Pyrénées-Roussillon.
Oh là là, tu as dit, Julie, chevalier du miel, ben c'est quand oui. même plus classe que candidat aux primaires socialistes.
Oh, bon, ça, c'est vite.
Bonjour. Bonjour, monsieur Leclerc.
Monsieur Jean Lassalle.
Bonjour tiens, tiens. À votre joyeux oh, troupeau.
Oui.
Et bonjour à vous, messieurs Montebourg.
Bonjour.
Vous qui êtes chevalier du miel des Pyrénées. Ici, nous avons, je dois vous le confier, un problème avec un ours. On n'arrive pas à le faire partir.
Ah,
Est-ce que vous
ne
pourriez pas l'attirer avec votre miel et nous en débarrasser?
Ben tiens.
Vous qui êtes si vaillant, si noble, chevalier du miel.
Oh, bien sûr, mon bon ami Lassalle. Taillot, suce au plantigrade indélicat. Je prends, de ce fait, mon épée faite en miel séché, mon beau destrier, mon Jean Lassalle, fidèle Jean Lassalle, sois mon palefrenier. Et allons, de ce pas, oxyre cette vilaine bête. Allez ! Taillot, taillot, allons-y, mon crasseux du Béarn, mon gentil écuyer difforme au nez patatoïde.
Ah, taillot, messire, taillot, je vous suivrai jusqu'au bout du monde.
Et puis France 2 penserait à se séparer de ses journalistes sportifs Nelson Montfort et Patrick Montel. On est en duplex avec Nelson Montfort. Bonjour Nelson, alors votre sentiment?
Oui, tout à fait, mes chers Julie, chers Nico, chers
oui.
Céline, Wendy, David,
oui,
écoutez,
oui,
Jean-Michel, une décision bien difficile à comprendre car je ne souffre, je dois vous le dire, d'aucune blessure contrairement à nos tennismen français. Rien aux adducteurs, mes genoux sont parfaits, le dos va bien, juste une petite douleur que je ressens en bas du dos car autant vous le dire, ça fait toujours un peu mal au cul de se faire virer.
Oh, mais calmez-vous, Nelson, calmez-vous. Puis vous allez rebondir sûrement, hein?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, je suis actuellement sur une compétition sportive à la maison de retraite des Mimosas, tandis que j'aperçois Ginette, 91 ans, 48 kilos, qui va tenter de battre son record de vitesse, faire le parcours, sa chambre, leur réfectoire en moins de 2 heures. Ginette s'élance et c'est parti, elle est bien Ginette, elle est sur les bases du record du monde, alors que oh là là, sort du diable Vauvert, Maurice qui arrive. Ginette vient d'être doublée par Maurice sur déambulateur Fleury Michon. Oui, car il y a une tranche de jambon qui s'est coincée dans le pied du déambulateur. Je sens que je vais me plaire ici, ma chère.
Irrésistible Nicolas Canteloup, comme tous les jours. Avec Julie, merci, c'était la revue de presque. Irrésistible Wendy Bouchard.
Oh,
le tour de la
que
question.
Dommage. Bonjour chers amis, chers amis. Nous sommes le 4 juillet, fête de l'indépendance, fête nationale aux États-Unis. Vous en avez parlé et vous le savez. Avec Nicole Bacharan et Jean-Éric Brana, on se demande comment, par cet intermédiaire, Donald Trump montre encore un peu plus sa personnalité avec cette idée de parade militaire, de spectacle, de grand show. Première économie du monde, première économie militaire. Il en parle, Donald Trump. C'est l'occasion de faire le point à un an et demi des prochaines élections.
Avec Donald Trump qui est votre invité dans quelques minutes.
Évidemment, on ne se refuse rien sur Europe 1 et en anglais dans le texte, s'il vous plaît. À 10h, le tourisme en question. La France bat des records de visites. Sachez que 6 Français sur 10 partiront en voyage en France cette année. Et le Routard a tout compris, qui fait des guides de plus en plus hyper locaux sur des régions dans la région, du pays de Bray à l'Anjou à vélo, des canaux de Bretagne, à le no-tourisme en Hérault. Et voilà, on en parle aussi avec Didier Arino, Philippe Gloguen, fondateur du Routard.
Hâte de vous écouter.
Merci mon cher ami, à tout à l'heure.
Bouchard.
Wendy Bouchard.
Elle attend vos appels dès maintenant au 39-21 à suivre la météo avec Laurent Cabrol et l'essentiel de la matinale. Il est 8h52. 8h54 à suivre l'essentiel de la matinale, mais tout de suite c'est la météo avec Laurent Cabrol.
Moi je veux savoir le temps qu'il fait, pardonnez-moi, à Arles oui. et à Avignon.
S'il vous plaît, si bravo.
Merci.
Vous, allez, vous partez pour
pour le sud.
L'orthographe de Julie Leclerc.
Et vous allez à Paris. Vous allez à Nice. Vous partez pour Cannes.
Voilà. Et on appelle de et pas depuis Pétauchnock.
Chers amis, pour tout vous dire, depuis 5 minutes, Julie nous donne des
sons. Elle a raison. Elle a raison.
Alors, c'était pendant la pub, donc on va l'utiliser tout de suite.
Il ne vous reste plus que 15 secondes. Merci, Laurent Cabrol.
23 à Caen, 25 à Lille, 28 à Verdun, 29 à Paris, 30 à Besançon, 31 à Bourges, Rennes et Clermont-Ferrand, 32 Marseille, Lyon. Ce sont nos températures de l'après-midi, bien sûr. 33 à Bordeaux, 34 à Biarritz, 35 à Toulouse, 37 à Arles, 37,5 à Avignon.
Ouais. On disait « on » à l'époque des papes.
Voilà. C'était un état. Parce que c'était une région. Oui, enfin, un état, pardonnez-moi.
Oui. Comme le Vatican.
Voilà, il fait beau partout.
Merci beaucoup.
Bonne nouvelle. Et en grec, on dit bonne journée.
Calimera.
Nous sommes le jeudi 4 juillet. On revient sur les moments forts de cette matinale. Nicolas
L'essentiel Sadegas. De la matinale. Tous les candidats au bac auront bel et bien le résultat demain. C'est la promesse du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer face à la grève des profs qui menace de ne pas transmettre les notes de copie qu'ils ont corrigées. La parade du ministère, c'est donner la note du contrôle continu en attendant celle obtenue aux épreuves. Un avant-goût de la réforme du baccalauréat. Alors qu'en pensent les lycéens? On écoute, c'était dans le journal de 8h.
Si on fait appliquer la meilleure des deux notes pour cette matière, pour certains élèves, autant le faire pour tout le monde ou faire pour personne, mais là c'est pas cohérent.
Au moins on aura tous nos résultats, c'est ce qui compte je pense. Le contrôle continu, bah, ça dépend du lycée, alors que le but du bac c'est qu'on soit tous traités de la même manière. Quoi.
Au final on revient sur la polémique de est-ce qu'il faut enlever le bac ou pas. C'est comme si le bac il servait à rien parce qu'il n'y a plus l'égalité et donc l'esprit du bac c'est plus la même chose.
Le désamour des salariés d'Île-de-France pour la vie parisienne, résultat d'une étude du site regionjob.com que vous révèle Europe 1 ce matin. 67% d'entre eux disent vouloir partir vivre en province. Bouchons, prix de l'immobilier, stress, pollution, mauvaise humeur généralisée. Les bonnes raisons ne manquent pas et les salaires plus élevés à Paris ne les retiennent pas. Écoutez.
Je suis prête à changer de métier, clairement, pour quitter Paris. Aujourd'hui, le confort de vie est vraiment important pour moi et Paris ne répond pas à mes besoins. L'argent, ça n'achète pas tout. Avec moins d'argent en province, on peut faire plus et l'argent ne fait pas le bonheur. Pour le coup, c'est Paris qui me l'a appris.
Ils ont bien raison. Et je constate que dans mon groupe d'amis, avec beaucoup de gens qui sont partis habiter à Paris, on est en train de récupérer tous nos amis à Nantes aujourd'hui et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. La vie a fait que s'installer à Nantes, pour chacun avec des raisons diverses, devenait une bonne solution et permettait de vivre peut-être moins à 100 à l'heure en permanence.
J-2 avant le grand départ du Tour de France, ce sera samedi à Bruxelles. Une nouvelle fois, le Tour partira de l'étranger et les coureurs ne passeront pas cette année par l'Ouest. Pourquoi cet itinéraire? Je posais la question à 7h45 à l'ancien maillot jaune Thomas Volker, consultant Europe 1 pour la durée du Tour. Voilà ce qu'il nous a répondu.
Le Tour est un événement maintenant qui est mondial au sens large, donc c'est normal qu'il s'exporte pour les départs. Du moment que c'est limitrophe, moi ça me choque pas, c'est vrai qu'il ne passe pas du tout dans l'Ouest cette année, mais il y a une explication aussi à ça, c'est que l'année dernière il est parti de Vendée et il a fait la part belle à l'Ouest, au détriment d'autres régions de France. La France est un territoire magnifique mais trop grand pour redemander aux coureurs de faire la totalité de la France, tous les départements en une fois. Donc ils essayent que tous les 3 ans, chaque personne en France à moins d'une heure de voiture puisse aller voir les coureurs passer.
Et puis un anniversaire ce matin, les 40 ans d'un petit objet très cher à Jean-Philippe Ballas et pas seulement. La petite histoire en musique, c'était juste avant 8h.
Je suis un petit boîtier bleu en plastique, je mesure un peu plus de 13 cm sur 8. J'ai un fil avec 2 petits bouts de mousse orange qu'on met sur les oreilles, je suis le tout premier Walkman. 1er juillet 79, la légende raconte que c'est le patron de Sony au Japon qui a demandé à ses ingénieurs de lui bricoler un petit lecteur cassette, histoire de pouvoir jouer au golf en musique. Mais le plus fascinant, c'est de relire les reportages de l'époque. L'inquiétude des anciens face à cette jeunesse bizarre qui semble se couper du monde en pleine rue avec ses écouteurs. Et je dis que c'est fascinant parce que les griefs d'il y a 40 ans contre le Walkman, l'isolement, le côté zombie, ces griefs, je vous promets, sont quasi les mêmes aujourd'hui lorsqu'on parle des écrans. On en a quand même vendu plus de 200 millions de Walkman à travers le monde. Et vous savez quoi? En 79, déjà, on commençait à parler de la vidéo.
C'est bon ça, faut toujours écouter les jeunes. Avant-gardistes. Voilà pour l'essentiel de la matinale que nous avons pris plaisir à partager avec vous. Merci à toutes les équipes techniques éditoriales d'Europe 1. Merci à vous de votre fidélité, de ce lien que nous avons construit cette saison. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Prenez soin de vous. Wendy Bouchard, je vous souhaite une belle émission. Julie aussi. Mm-hmm. Céline Dacosta, je vous dis à demain pour la dernière de la saison, la dernière matinale.
À demain.
C'était un plaisir et un honneur de vous accompagner. À
je
demain.
Viens avec des Kleenex.
Non, tout va bien.